18h-20h, le grand journal du soir. François Claus.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce grand journal du soir avec une pensée pour notre amie Wendy qui profite légitimement d'un bon moment de liberté. Car oui, au cœur de ce long week-end ensoleillé de l'Ascension, il flotte comme un petit parfum de liberté à l'heure où plages et églises s'apprêtent à nous recevoir. À nouveau, la vie, la vraie, pas encore tout à fait. Les questions, les vraies, elles sont là et nous allons nous les poser en votre compagnie jusqu'à 20h. Questions sur l'avenir sombre de l'industrie automobile française avec l'économiste Pascal Perry. Questions sur l'avenir de l'Europe après la décision de Macron et de Merkel cette semaine d'endetter un véritable tabou qui saute. Et pour mieux sauver le continent, nous serons avec Jean-Dominique Giuliani et Daniel Cohn-Bendit. Questions également sur la pandémie qui recule chez nous, qui flambe en Amérique du Sud avec l'épidémiologiste Raphaël Pitti à 19h. Et puis la culture, parce qu'elle nous sauve si souvent, il faut plus que jamais la sauver. Nous entendrons les mots très forts d'André Malraux, dit tout à l'heure par le réalisateur Robert Guédiguian. Oui, plus que jamais, nous ressentons à fleur de peau ce besoin de liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune.
Et oui, nous aimerions aller jusqu'au bout avec Georges Moustaki. Nous irons au moins jusqu'à 20h. Georges Moustaki, dont nous retracerons tout à l'heure le parcours avec Fabien Lecoeuvre. Mais pour l'heure, bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Et bonsoir à vous Marlène Duré qui nous accompagnait jusqu'à 20h.
Bonsoir François, 18h et 1 minute.
Pour qu'il y ait une vie d'église, qu'il y ait une vie de communauté, il faut que les gens soient physiquement ensemble. Pas tout le temps, mais au moins de temps en temps. Et la messe dominicale a ce rôle important.
Les cérémonies religieuses peuvent désormais reprendre à condition de respecter des règles sanitaires très strictes. De nombreux lieux de culte, églises ou mosquées préfèrent encore attendre avant d'accueillir les fidèles.
L'hydroxychloroquine de plus en plus sur la sellette. Une étude pointe sa nocivité. Le gouvernement demande au Haut Conseil de la Santé une révision des règles de prescription dans les 48 heures.
Il faut peut-être prendre des mesures un peu coercitives pour faire en sorte que ce médicament ne soit plus prescrit dans l'indication du traitement antiviral du Covid.
Deux mois après le premier tour des municipales, les conseils commencent à élire les maires et leurs adjoints. Gérald Darmanin est réélu à Tourcoing et porte la double casquette ministre-maire, ce qui a donné lieu à de vifs échanges avec l'opposition. Deuxième
la chloroquine.
Non, François,
la chloroquine qui apparaît.
Vous voulez pas parler du deuxième week-end de déconfinement et le bonheur des habitants du Sud de retrouver leur plage avec en toile de fond les gestes barrières?
Ça fait du bien de prendre un peu l'air, monsieur. Enfin, on n'en peut plus. Ça fait deux mois que nos confinements, je suis venu au hasard. Oui, il y a du monde, mais il y a la police qui veille. Hein. On se fait reconfiner, là. Non, il faut respecter.
Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Voilà donc la chloroquine qui apparaissait comme un remède presque miracle contre le Covid-19 qui se retrouve désormais pointé du doigt.
Ah oui, une étude publiée par la revue britannique scientifique The Lancet pointe son inefficacité pour traiter les malades du Covid-19 et les risques de mortalité dans certains cas. Et à la suite de cette publication, Olivier Véran saisit le Haut Conseil de la Santé publique et lui demande d'agir au plus vite, Angèle Châtelier.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, donne deux jours au Conseil de la Santé publique pour revoir la façon dont on prescrit la chloroquine aux malades du Covid-19. Depuis fin mars, seuls les patients présentant des formes graves de la maladie en prennent et en milieu hospitalier. Mais la donne risque de changer, et vite, après qu'une large étude en démontre son inefficacité, voire sa dangerosité. Cette saisie du Haut Conseil de la Santé publique est avant tout un moyen de déconseiller et même décourager son usage, selon François Chaste, membre de l'Académie nationale de pharmacie.
On sait que dans ce domaine un peu passionnel de l'hydroxychloroquine, il faut peut-être prendre des mesures un peu coercitives pour faire en sorte que ce médicament ne soit plus prescrit dans l'indication du traitement antiviral du Covid.
Plus de 200 études sont actuellement en cours partout dans le monde pour juger de l'efficacité ou non de la chloroquine. Celle publiée dans la revue médicale The Lancet a consulté les dossiers de 96 000 malades. Parmi eux, 15 000 qui avaient pris différents dosages et associations du médicament avec d'autres. Résultat, les risques de mortalité seraient de 34 à 45% plus élevés.
Angèle Châtelier, en parallèle à l'étude publiée dans The Lancet, une lueur d'espoir avec un autre médicament expérimental. 3 semaines après l'annonce par la Maison Blanche de la probable efficacité du remdesivir. Un essai clinique effectué sur 1 million de malades dans 10 pays confirme l'effet positif de cet antiviral sur des patients hospitalisés. Une injection par jour pendant 10 jours a accéléré leur rétablissement.
Et puis Sophie, aujourd'hui c'est une étape importante pour les fidèles. Dans le cadre du déconfinement, les fidèles peuvent retourner dans les lieux de culte.
Oui, les cérémonies religieuses peuvent reprendre. Décision du gouvernement après l'injonction du Conseil d'État cette semaine. Un décret a été publié aujourd'hui au journal officiel. Dès demain, certaines églises accueilleront les fidèles pour la messe avec des conditions sanitaires très strictes. Port du masque, distanciation et désinfection des mains. D'autres préfèrent attendre encore un peu, comme l'église Notre-Dame à Boulogne. Boulogne-Billancourt, reportage de Pierre Herbulot.
Les bancs de l'église pourraient facilement accueillir 4 personnes, mais un petit papier scotché dessus indique 2 places. À l'entrée, des feuilles avec les nouvelles consignes sont accrochées.
Donc il y aura 2 sorties et 1 seule entrée, de façon à ce qu'on puisse justement donner aux gens les informations et les inviter à mettre leur masque. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée.
Henri Duc-Moget, le curé de Notre-Dame de Boulogne, est heureux de pouvoir accueillir de nouveau les croyants.
Ah bah c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Le principe de la célébration eucharistique et des sacrements en général, c'est de se retrouver. Enfin, mais il n'y a pas de communauté virtuelle. Pour qu'il y ait une vie d'église, qu'il y ait une vie de communauté, il faut que les gens soient physiquement ensemble, pas tout le temps. Mais au moins de temps en temps, et la messe dominicale a ce rôle important pour toute communauté.
Vanessa, une fidèle, redécouvre sa paroisse après avoir vécu pendant 2 mois sa foi sur Internet. Elle n'a qu'une hâte, assister à la messe en vrai.
Bien évidemment, parce qu'il y a tout l'aspect communautaire que l'on n'a pas quand on est devant le petit écran. Et plus que ça, enfin, il y a la présence réelle aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Il lui faudra pourtant patienter encore un peu. La première messe ici sera celle de la Pentecôte. Décision du curé qui ne veut prendre aucun risque.
Pierre Herbulot. Et pour les musulmans, l'annonce de la reprise des cérémonies religieuses coïncide avec la fin du ramadan ce soir et la fête de l'Aïd demain.
Et pourtant, les mosquées ne pourront pas ouvrir leurs portes aux fidèles. Écoutez Abdallah Zekri, le délégué général du Conseil français du culte musulman.
Il est impossible d'ouvrir les lieux de culte demain pour la prière de l'Aïd. Alors, pourquoi c'est pas possible? Parce que les salles de prière étaient fermées depuis 2 mois. Et pour les ouvrir, il faut d'abord, naturellement, tout désinfecter. Les murs, les sols, les tapis de prière, c'est impossible. La fête de l'Aïd, elle draine plus de 1,5 million de musulmans à travers les 2500 lieux de culte. Donc, il est impossible d'avoir le gel, les masques pour tout le monde. Alors, en nous demandant aux musulmans de France de continuer à faire leur prière chez eux comme les 2 derniers mois, d'autant plus que la prière de l'Aïd, c'est pas une prière obligatoire et ça règle les problèmes parce que il y a un principe fondamental pour moi qui était immuable, c'est la préservation de la vie plutôt que de faire des prières avec beaucoup de gens entassés et qu'on risque après d'avoir des cas de pandémie dans certains endroits.
Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman avec Nicolas Feldman.
Et puis une autre reprise aujourd'hui, la vie démocratique 2 mois après le premier tour des élections municipales.
Les conseils municipaux entrent en fonction dans plus de 30 000 villes depuis ce matin jusqu'à jeudi. Ils désignent les maires et leurs adjoints. Parmi les premiers à avoir pris ces fonctions ce matin, Gérald Darmanin a été élu maire de Tourcoing lors d'un conseil municipal à huis clos et diffusé sur les réseaux sociaux. Contrairement à la règle, il a été autorisé à cumuler les casquettes de maire et de ministre, ce qui a donné lieu à un échange assez vif avec Rémi Meurin du Rassemblement National.
Maire ou ministre, il faut choisir. Monsieur Darmanin, pendant cette campagne, oui, vous avez menti consciemment aux électeurs puisque vous restez ministre, maire à temps partiel, ministre à temps partiel.
Malheureusement, je crois, monsieur Meurin, que le parti que vous représentez, pour mon pays, pour ma ville, sera toujours un ennemi. J'espère que nous aurons l'occasion de le voir et que les Tourcainois verront une nouvelle fois à quel point votre parti se moque des petites gens et ne vit que des problèmes. Et quand il y a moins de problèmes, j'ai tendance à croire que c'était le cas à Tourcoing dans les élections municipales, ben, il y a moins de votes pour vous. Donc je vous souhaite, monsieur Meurin, d'avoir de moins en moins de problèmes sur lesquels vous puissiez vous surfer, vous et vos idées mortifères.
Voilà l'échange assez vif entre Gérald Darmanin lors de sa prise de fonction ce matin avec Rémi Meurin du Rassemblement National. La filière du livre en danger à cause de l'épidémie de coronavirus. Dans une tribune, 600 auteurs, éditeurs et libraires réunis en collectif demandent à Emmanuel Macron d'agir. Le gouvernement, de son côté, travaille à un plan de soutien.
Deuxième week-end de déconfinement en France et long week-end de l'Ascension, les Français en ont profité pour partir.
Et pour les habitants du Sud où les plages sont rouvertes, la destination dans un rayon de 100 km était toute trouvée, Stéphane Frangy.
Oui, et on l'a bien senti avec un certain sentiment de délivrance.
Mais ça fait du bien de prendre un peu l'air, monsieur. On n'en peut plus. Ça fait 2 mois que nos confinements, je suis venu au hasard. Oui, il y a du monde, mais il y a la police qui veille. Hein, parce qu'on fait, bon, on se fait reconfiner, là, il faut respecter.
Voilà, sur la plage des Lumières, la fréquentation est somme toute correcte. Pas d'entassement, ce qui n'empêche pas eh bien, de nombreuses patrouilles, des policiers municipaux, des maîtres nageurs. Et même si au final, certains se sentent mis sous pression.
C'est assez bizarre de se faire rappeler de temps en temps à l'ordre par les micros qu'il faut être finalement un bon citoyen. Mais bon, c'est assez quand même paradoxal d'être dans un endroit comme ça aussi idyllique et d'être contraint de suivre des règles qui sont assez strictes, quoi.
Mais la tentation du sable chaud est trop forte pour certains qui posent tout de même leurs serviettes et guettent les patrouilles.
Bah ouais, mais j'ai souvent la tête vers là-bas. Dès que je les vois, je vais aller me baigner. Ils vont s'arrêter devant ma serviette vide. Puis quand ils sont partis, je reviens m'asseoir. Je crois que tout le monde fait ça. On joue au chat et à la souris, il me semble.
Mais du côté des policiers municipaux, l'heure reste toujours à la prévention plutôt qu'à la verbalisation.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône. Nouvelle étape dans le déconfinement de l'Espagne. Le Premier ministre Pedro Sanchez estime que le plus dur est passé. Le pays ouvrira ses frontières et accueillera de nouveau les touristes étrangers à compter du mois de juillet. Et autre étape importante, le championnat de football qui reprendra et ça ce sera le 8 juin. La semaine dernière, c'était l'Allemagne. La reprise des championnats européens se fait donc en ordre dispersé. Christophe Lamarre.
Le moment est venu de retrouver de nombreuses activités quotidiennes. La Liga est de retour. C'est le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui s'est chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux fans de football. Concrètement, le championnat reprendra le vendredi 12 juin avec probablement le derby sévillan entre le Séville FC et le Betis. Il restera alors 11 journées à disputer, mais les supporters ne doivent pas se réjouir trop vite. Les matchs se dérouleront à huis clos. L'Espagne est le deuxième grand championnat à reprendre après l'Allemagne. Quant aux autres, la situation est différente. L'Italie et l'Angleterre aimerait reprendre, on évoque la mi-juin dans les deux cas, mais pour l'instant, les gouvernements italiens et anglais n'ont pris aucune décision. Le cas français est réglé puisque la Ligue 1 et la Ligue 2 sont définitivement arrêtés, tout comme les Pays-Bas, la Belgique et l'Écosse.
Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Sophie Tussaud pour ce tour complet de l'actualité, l'actualité du sport. On en parle avec vous mon cher Lionel Rousseau à partir de 20h dans Europe 1 Sport et on parlera j'imagine de la reprise des championnats.
Absolument, avec nos invités, notamment le président de Montpellier, Laurent Nicolin, et Djibril Cissé, l'international français, ancien joueur de Marseille et de Liverpool, qui à 38 ans, veut reprendre du service. Il n'a marqué que 96 buts en Ligue 1, il aimerait un contron et atteindre les 100, marquer donc 4 buts. Il veut sortir de sa retraite et peut rendre des services à un club de Ligue 1. On en parlera ce soir avec lui, et notamment avec Giroud.
Et on vous écoutera évidemment à partir de 20h, avec passion comme d'habitude Lionel, à tout à l'heure.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadB, produit de fabrication française. ArcadB vous présente la météo.
Et la météo, c'est l'affaire de Valérie Darmon. Bonsoir ma chère Valérie, c'est un week-end de l'Ascension ensoleillé.
Et oui, c'est effectivement le retour dès le lever du jour d'un temps calme et souvent dégagé sur la plupart de nos régions, passé les quelques nappes de brouillard vers le Val de Saône ou encore les nuages bas sur les Pyrénées et leur piémont. Tout cela va se dissiper au fil de la matinée. C'est un petit peu plus nuageux aussi au nord de la Bretagne et de la Normandie jusqu'aux frontières donc du nord sur les Hauts-de-France où les éclaircies du petit matin vont être assombries par de nombreux passages nuageux jusqu'en milieu d'après-midi avant le retour d'un temps beaucoup plus lumineux. C'est quasi le seul bémol de cette journée, avec des températures encore frisquettes le matin. Les minimales seront comprises entre 6 et 12 en général, 13 à 18 près de la Méditerranée. Les maximales entre 16 et 22 sur la moitié nord, 21 à 26 au sud, 25 à 29 sur le pourtour méditerranéen.
Merci Valérie Darmon et on refera un point bien sûr à 18h30 sur Europe 1. Jusqu'à 20h, le grand journal du soir, c'est avec vous François Claus. C'est à suivre dans un instant.
Et avec vous, Marlène, bien sûr. À suivre dans un instant, Pascal Perry, l'économiste, qui va venir nous éclairer un peu sur l'avenir très sombre de l'industrie automobile française.
Il est 18h15 et nous sommes avec François Claus pour le Grand Journal du Soir sur Europe 1. François, vous accueillez à présent votre premier invité. On va parler automobile.
On va parler automobile avec Pascal Perry. Bonsoir, Pascal.
Oui, bonsoir, François.
Professeur d'économie dont on apprécie les décryptages sur LCI tous les après-midi entre 16h et 17h, spécialiste des transports. On vient de l'apprendre de la part de l'Élysée. Emmanuel Macron va faire d'importantes annonces mardi dans le cadre d'un plan de soutien à la filière automobile, plombée, on le sait, par la crise du coronavirus, des ventes en chute libre de 89% au cours du dernier mois. Pascal Perry, on voit ressurgir des mots, délocalisation, plans sociaux. Est-ce qu'après être resté 2 mois au garage, la voiture française peut redémarrer sans casse ?
Je pense que oui. Je pense qu'il y a un vrai capital technique chez Renault, un vrai savoir-faire. C'est une entreprise qui s'intègre dans le cadre d'une alliance mondiale, Nissan, Mitsubishi. C'est un petit peu plus de 10 millions de véhicules vendus chaque année, sur un total d'une centaine, 100 millions de véhicules vendus chaque année dans le monde. Donc c'est 10% de part de marché. Bien sûr que, comme toutes les grandes marques automobiles, Renault fait face à la période de disette que nous affrontons. Il y aurait entre 350 000 et 400 000 véhicules en stock aujourd'hui entre l'assembleur, la marque Renault et les concessions. Donc il faudra probablement faire des efforts pour déstocker. Il faudra aussi probablement un peu d'agilité sociale. Vous savez, référons-nous à ce qu'ont fait les Allemands en 2008, hein, après la crise. Ça s'appelait Kurzarbeit, le travail de courte durée. Il faut mettre à profit le dispositif de chômage partiel, peut-être réduire le temps de travail pendant une période, consacrer une partie du temps aux formations, s'orienter vers de nouveaux produits que les consommateurs vont probablement plébisciter, les voitures hybrides. J'allais dire que tout y est chez Renault. J'entends évidemment beaucoup de choses. J'ai entendu le ministre de l'économie dire Renault peut mourir, mais comme tous les organismes vivants, et une entreprise c'est un organisme vivant, la perspective de la disparition est toujours possible, mais je ne crois pas que Renault disparaîtra. Il faut simplement affronter cette période avec lucidité. Pas nécessairement à travers des délocalisations, à travers une nouvelle organisation du travail. Il faut aussi probablement rénover la politique de gamme de Renault. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés chez Renault, ou alors elles sont mal connues. Vous voyez, la dernière Clio, par exemple, est une très bonne voiture. Elle a mis du temps à sortir. On est sur un marché qui est quand même très exigeant, très concurrentiel aujourd'hui, assez orienté par le prix. Mais je pense malgré tout que Renault a des armes pour survivre.
Alors la question qu'on se pose évidemment, Pascal Perry, après que l'État a annoncé éventuellement un prêt de 5 milliards d'euros pour aider le constructeur dans ce qui serait son indispensable réorganisation que vous évoquiez, mais aussi changement de stratégie, on connaît le retard français en matière de voitures électriques, est-ce que cette crise peut être aussi l'occasion finalement d'accélérer la révolution électrique, et de quelle manière ?
Alors oui, probablement, méfions-nous malgré tout de la révolution électrique parce qu'elle comporte un piège. À ce stade, la vraie valeur dans une voiture électrique, c'est sa batterie. Or, la batterie, vous savez François, elle est fabriquée essentiellement en Asie. Donc toute transformation du modèle vers l'électrique consisterait au fond à délocaliser une partie de la valeur vers l'Asie. Donc allons-y, hâtons-nous lentement pour reprendre une formule connue. Bien sûr qu'il faut aller vers des moteurs hybrides, bien sûr que Renault doit s'orienter dans cette direction. Il y a aujourd'hui un projet très intéressant financé par la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, une espèce d'Airbus européen de la batterie. Il ne faut pas s'engager dans l'électrique si on n'a pas les outils de la souveraineté industrielle. Si demain les
parce que sinon on risque
européens...
de vivre finalement, on risque de vivre encore plus gravement ce que seraient les localisations quand on sait qu'aujourd'hui la plupart des voitures Renault sont fabriquées à Tanger, en Slovaquie, ailleurs qu'en France. Est-ce que les contreparties demandées aujourd'hui par les salariés aux 5 milliards éventuellement de prêts de l'État, ça vous paraît possible ? C'est-à-dire que Renault s'engage à maintenir Flins, à maintenir Douai, à maintenir ses sites ?
À Alors oui, à deux conditions. D'abord, bon, un préalable. Vous savez, sur une voiture aujourd'hui, le coût de main-d'œuvre représente autour de 15% du coût total de fabrication. Alors évidemment, ça n'est pas marginal, mais ça n'est pas essentiel. Donc on peut très bien imaginer demain assembler des voitures françaises en France, y compris d'ailleurs de petits véhicules. Toyota en fait la démonstration avec la Yaris dans le nord de la France. La Yaris est une petite voiture, elle est assemblée en France, elle est compétitive. Néanmoins, je crois que ça doit être assorti d'un deuxième élément, d'un deuxième axe stratégique qui serait pour Renault une forme de montée en gamme. Vous savez, plus on monte en gamme, plus au fond, La valeur perçue du véhicule par le consommateur est élevée, plus il y a de technologie dans le véhicule, plus au fond le coût de main-d'œuvre devient marginal dans le coût total de production. Donc oui, il est possible de fabriquer en France, il faut maintenir de l'emploi en France. On entend maintenir d'ailleurs la recherche et le développement qui est la vraie valeur ajoutée à ce stade, et de ce point de vue, je ne crois pas qu'il y ait de projet de délocalisation, mais en effet, on doit pouvoir fabriquer des voitures, y compris de petites voitures en France. Délocaliser n'est pas nécessairement une très bonne solution.
Merci beaucoup Pascal Perry de nous avoir d'une certaine manière rassuré. Je rappelle qu'Emmanuel Macron va donc s'exprimer en personne mardi pour annoncer d'importantes mesures, plan d'aide, souveraineté industrielle, transition vers les véhicules propres. Merci de nous avoir éclairé Pascal Perry. Je renvoie évidemment à Periscope tous les jours sur LCI entre 16h et 17h. Et bonne fin de week-end à vous Pascal.
Merci, au revoir.
Et dans un instant, dans ce grand journal du soir, un témoignage, François.
Un témoignage très fort. Derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Derrière les chiffres des victimes, il y a des gens à qui l'on doit aujourd'hui, avec dignité, rendre hommage. Lionel Petitpas sera avec nous dans un instant.
18h23, on retrouve François Claus pour la suite du grand journal du soir sur Europe 1.
Et nous sommes heureux d'accueillir ce soir sur l'antenne d'Europe 1 Monsieur Lionel Petitpas. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous aviez témoigné au mois d'avril dernier. Vous veniez de perdre votre épouse emportée par le Covid-19 à Reims. Vous avez décidé il y a 3 jours de déposer les statuts d'une association, la première en France, pour quelque part fédérer les familles qui ont perdu un être cher et pour pouvoir rendre hommage à toutes ces victimes, pour dire que derrière les chiffres égrenés chaque soir, il y avait des vies brisées, et vous avez eu le sentiment peut-être de ne pas être en mesure de rendre un dernier hommage digne à votre épouse. C'est cela, monsieur Petitpas ?
Oui, tout à fait, c'est cela. Oui. Toutes les familles qui sont endeuillées par rapport au coronavirus, on a tous exactement le même sentiment. Hein. On n'a pas pu rendre l'hommage souhaité à nos défunts. On n'a pas pu aller au funérarium, on n'a pas pu assister aux crémations, enfin, etc. quoi. Hein. Et on a un trou absolu dans le processus. Là, on n'arrive pas à faire le deuil et on est tous dans la même situation quand on en parle entre nous. Quoi.
Vous aviez témoigné très fort avec Wendy Bouchard et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce soir sur Europe 1. Vous aviez raconté comment vous êtes retrouvé aux portes des urgences sans pouvoir pénétrer et sans pouvoir dire un dernier adieu à votre épouse. Quelle est la manière de rendre cet hommage digne ? Vous évoquez le besoin d'une journée de deuil national pour les victimes du Covid-19. Expliquez-nous à quoi vous pensez exactement.
Oui, écoutez, je me resitue, si vous voulez, par rapport aux victimes du Bataclan. Non pas que je veux comparer avec le Bataclan, hein, mais pour le Bataclan, on a été en capacité, enfin le pays a été en capacité de mettre en place des processus, entre autres une journée de deuil national. Et je pense que on approchera quand même pas loin des 30 000 victimes par rapport à ce coronavirus. Et actuellement, il se passe rien. Personne ne dit rien. On est dans le vide absolu. Je pense qu'une journée de deuil national permettrait aux familles, non pas de faire leur deuil complètement, mais au moins de se retrouver par rapport à ce deuil national, de retrouver une reconnaissance du pays par rapport à ce qui est arrivé. Et le deuil national serait pour moi l'étape au niveau du pays. Et je pense que derrière, il faudrait quand même aussi qu'au niveau des communes ou au niveau des départements, qu'il se fasse aussi quelque chose beaucoup plus proche des familles dans les secteurs où ils habitent, quoi.
Certains ont évoqué le besoin ou le désir d'ériger une forme de mémorial. Vous pensez à une solution comme celle-là ?
Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi, enfin, il y a un projet. Enfin, en priori, l'Élysée réfléchira à un projet de mémorial. Moi, c'est pas du tout ce que je souhaite. Et quand j'en ai déjà parlé avec quelques familles concernées, ils sont dans la même interprétation que moi. C'est pas un mémorial qu'on souhaite. Hein. C'est plus la journée de nationale qui nous paraîtrait la plus adaptée au niveau du pays pour que ce jour-là, on pense à toutes ces personnes qui sont mortes de ce coronavirus et que les familles puissent se retrouver dans ce deuil.
Vous avez eu des contacts, vous le disiez, avec d'autres familles. Elles ressentent cette impression de vide que vous ressentez, vous, et cette très grande difficulté à faire son deuil, comme on dit.
Oui, tout à fait. Et sans se concerter, mais quand on aborde le sujet avec les différentes personnes que j'ai déjà eu en contact, on a ce sentiment, si vous voulez, par rapport à un deuil classique. Bon, non pas qu'un deuil, c'est toujours mal de perdre quelqu'un, mais dans un deuil classique, vous avez tout le rite funéraire qui vous permet d'accompagner le défunt, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous recueillir au funérarium, vous pouvez éventuellement assister à la cérémonie de la crémation, vous pouvez avoir des fleurs, enfin, il y a tout un rite funéraire qui permet à la famille d'accompagner cette personne défunte. Et nous, les gens qui ont un défunt mort du coronavirus, on a été privés de tout ça. Vous l'avez rappelé, moi, mon épouse, elle est partie à 2h du matin à l'ambulance. Je ne l'ai plus jamais revue vivante. Le seul élément qui me reste d'elle, c'est le vendredi d'après où j'ai été disperser ses cendres au jardin du souvenir. Toutes les étapes préalables n'ont pas eu lieu.
Et c'est évidemment quelque chose avec lequel vous devez vivre aujourd'hui, déjà depuis plus d'un mois, et que cette douleur, elle est toujours là, à fleur de peau. Vous êtes accompagné dans votre démarche, d'ailleurs, de votre fille, qui est infirmière elle-même. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, elle est infirmière au CHR de Reims. Et effectivement, c'est toujours vif. Et très honnêtement, je n'arrive pas à faire le deuil. J'ai dit à l'époque, on m'a volé un moment dans ce processus. Et je n'arrive pas à me rendre compte encore que mon épouse n'est plus là, quoi.
Vous avez pris contact avec des députés, avec des instances particulières pour mener ce combat?
Alors, pour l'instant, l'association vient d'être créée, donc je suis dans la phase de mise en place de l'association. J'ai, par contre, rendez-vous le 4 juin avec un député de la Marne, à qui j'avais écrit suite au décès de mon épouse. Donc, il souhaitait me revoir et je le remercie d'ailleurs de m'avoir recontacté. Donc, je vais le voir. On va effectivement discuter du courrier que j'avais envoyé. Mais moi, j'y vais également dans un esprit constructif. Hein. Je veux voir avec lui qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce que lui pourrait faire en tant que député pour nous aider dans la démarche. Et moi, j'ai bien l'intention ensuite de contacter les maires de communes pour les interpeller sur ce point-là. Et puis je
sur le
aussi,
point d'une journée de deuil national. Donc,
oui.
Si des familles veulent vous contacter, Monsieur Petitpas, qui vous écoute et qui voudrait et qui partage qui est votre douleur aujourd'hui, qui voudrait vous contacter, quel est le plus simple?
Le plus simple, c'est de me contacter sur mon adresse mail ou mon téléphone éventuellement. Hein. Mais c'est
plus écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra votre adresse mail sur le site du Grand Journal du Soir sur Europe 1 pour leur permettre à ces familles qui, je pense, ont été touchées par vos propos de vous contacter. Merci d'avoir témoigné ce soir, Lionel Petitpas, sur Europe 1.
Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.
Le Grand Journal du Soir, c'est avec vous François Claus, il est déjà 18h30.
Et à 18h30, c'est l'heure du rappel des titres avec Sophie Hachette. Bonsoir Sophie.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Olivier Véran veut réviser les règles de prescription de l'hydroxychloroquine en France. Le ministre de la Santé a saisi le Haut Conseil de la Santé publique après la publication d'une étude dans la revue scientifique The Lancet. Une analyse de 96 000 dossiers médicaux montre que l'hydroxychloroquine entraîne un risque accru d'arythmie cardiaque et de décès chez les patients hospitalisés. Emmanuel Macron fera mardi d'importantes annonces dans le cadre d'un plan de soutien à la filière automobile. Mobile, durement impacté par la crise sanitaire, un plan qui vise notamment la transition vers les véhicules propres. La vie municipale reprend son cours. Les maires élus dès le premier tour ont pris leurs fonctions dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi, plus de deux mois après les élections municipales. Dans les autres communes, le second tour aura lieu le 28 juin, une décision réversible soumise à l'évolution de l'épidémie. Les cérémonies religieuses redémarrent, elles aussi aujourd'hui, avec des mesures sanitaires strictes, masques obligatoires, désinfection des mains et filtrage à l'entrée. Les différentes autorités autorités religieuses appellent les fidèles à ne pas se ruer vers les lieux de culte. Et puis l'Espagne accueillera les touristes étrangers à partir du mois de juillet, annonce du Premier ministre espagnol cet après-midi. Le championnat de football, la Liga, reprendra, elle, la semaine du 8 juin, deuxième grand championnat européen à reprendre après la Bundesliga en Allemagne.
Merci beaucoup Sophie Echen, on vous retrouve pour le journal tout à l'heure à 19h. Mais avec vous Valérie Darmon, le temps de demain et qui s'améliore sensiblement.
Absolument, l'anticyclone des Açores revient plus gonflé que jamais, chassant les nuages et les pluies vers l'Italie et l'Allemagne. On retrouve donc un temps assez bien ensoleillé, malgré quelques passages nuageux sur le nord du pays, de l'intérieur de la Bretagne au Grand Est, en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne. Du sud du bassin aquitain aux Pyrénées, le ciel est par moments voilé et même assez menaçant en fin de journée en montagne. Et au nord, il faudra encore patienter pour la remontée des valeurs, mais au sud, il continuera de faire très beau, avec 29 annoncés à Montpellier en ce dimanche après-midi, 27 à Marseille et Perpignan, 24 à Brive-la-Gaillarde et Toulouse, 23 à Paris, 22 à Quimper, 20 degrés à Caen et 18 à Dunkerque.
Merci Valérie Darmon. Et le journal, le grand journal du soir, se poursuit sur Europe 1 avec nos interviews pour mieux comprendre le monde qui change, François.
Et pour revenir sur l'actualité de la semaine et revenir sur cet événement qui n'a peut-être pas été suffisamment marqué en France, côte à côte, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont lancé un plan d'endettement à hauteur de 500 milliards d'euros pour l'Europe. Ça peut sembler, au milieu des chiffres hallucinants qu'on nous sort à droite, à gauche, en Chine, aux États-Unis, quelque chose d'anodin. C'est quelque chose, au contraire, de fondamental. Et c'est ce qu'on va essayer de décrypter sur ce qui s'est joué cette semaine, notamment avec Jean-Dominique Giuliani, qui est le président de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir, monsieur Giuliani.
Bonsoir.
Et puis il nous accompagne, le plus français des Allemands ou le plus allemand des Français. On va le retirer à sa passion Bundesliga pendant quelques minutes. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit.
Bonsoir, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Quand je disais, Jean-Dominique Giuliani, que c'est un événement considérable, c'est un véritable dogme, c'est un tabou qui a sauté à travers cette annonce du couple franco-allemand Merkel-Macron cette semaine.
Bon, écoutez, il ne faut pas exagérer non plus. D'abord parce que l'Union européenne s'est déjà engagée. J'ai fait les comptes avant de vous parler pour plus de 3400 milliards d'euros. Évidemment, ça ne veut plus rien dire à ce niveau de zéro, mais pour essayer de relancer l'économie. Et deuxièmement parce que c'est toujours difficile de mettre 27 ou 28 États membres d'accord. On sait qu'il y a des cultures différentes. On sait que du côté français, on souhaite s'endetter, et on aime bien la dette et on n'aime pas trop la rembourser, et du côté allemand c'est l'inverse. Alors c'est un événement important dans la mesure où les deux chefs d'État et de gouvernement ont considéré que la gravité de la situation nécessitait de sortir par le haut en fait des différences, et ont trouvé une formule qui reste à confirmer dans le budget de l'Union et qui consiste à permettre à la Commission européenne d'emprunter sur les marchés pour pouvoir abonder un budget qui est trop chiche et qui est abondé par les États membres aujourd'hui. Je pense que Daniel Cohn-Bendit sera d'accord avec moi. Le Parlement européen réclame depuis longtemps qu'on ait un budget digne de ce nom. Or, c'est 1% de notre richesse qu'on dépense ensemble pour faire face aux grands défis. On voit bien que ça ne suffit pas.
Et c'est pour ça que je parlais d'événements malgré tout importants, Jean-Dominique Giuliani, mais même si je comprends vos réserves, et on va voir avec vous évidemment maintenant les autres pays qu'il convient de convaincre, et il y a un front anti-endettement qui a vu le jour, mais en Allemagne, Daniel Cohn-Bendit, Angela Merkel a franchi un pas qu'elle n'avait pas franchi jusqu'à maintenant, avec ce rapport presque névrotique que les Allemands ont à la dette.
Oui, François, mais le problème, c'est pas un rapport névrotique à la dette, puisque le budget allemand est quand même endetté, mais à 60% du PIB, alors qu'en Allemagne, en France, maintenant, ça doit être 120-130%. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, l'Allemagne et la France, et l'Allemagne a accepté qu'il y ait un transfert positif partant du budget européen. C'est-à-dire qu'il va y avoir un emprunt commun à hauteur de 500 milliards pour relancer l'économie et relancer toute l'économie de la santé dans l'Union européenne, et que les pays qui en bénéficieront ne pourront pas rembourser, ne devront pas rembourser au prorata de ce qu'ils ont reçu. Et ça, c'est nouveau, et c'est vrai que c'est un pas que l'Allemagne a franchi, non pas seulement Mme Merkel, mais la majorité de l'opinion publique allemande, 51% des Allemands, sont d'accord avec cela, ce qui est vraiment nouveau et très important, parce que cela montre aujourd'hui que la chancelière et les Allemands ont compris que l'intérêt de l'Allemagne, c'est le maintien justement du marché européen et de l'Union européenne.
Alors il s'agit maintenant, Jean-Dominique Giuliani, de convaincre pour le couple français-allemand, j'allais dire, le front du non-endettement porté par notamment les Pays-Bas, mais aussi quelques pays scandinaves, Danemark, Suède ou Autriche, qui ne sont pas forcément favorables à cette solution.
Oui, absolument. Donc, c'est pas gagné, c'est pas facile, mais quand même, la force d'entraînement du couple franco-allemand et la puissance de leurs économies et de leurs finances et de leur reste très fort. Alors, dans ces frugaux qu'on appelle aussi les radins, d'ailleurs, parce qu'ils aiment pas trop payer pour les autres, en réalité, il y a deux choses. Il y a l'idée de ne pas gaspiller l'argent en le donnant à ceux qui gèrent mal leur budget, et c'est une précaution légitime qu'il va falloir prendre. Et puis il y a aussi une autre chose qu'on oublie souvent, nous Français, beaucoup moins en Allemagne d'ailleurs, c'est que les grands États font toujours peur aux petits. Et les petits États ont toujours peur que quand on prend des mesures, ça profite d'abord à nos grandes entreprises qui sont en difficulté, à nos grands budgets qui sont aussi parfois déficitaires. Et donc le fait de passer par le budget européen, ça devrait garantir, sous le contrôle du Parlement, ça devrait garantir à ces États-là aussi que les règles européennes sont respectées. Elles sont beaucoup plus sévères que ce qu'on peut connaître en France. On ne dépense pas comme ça, on contrôle l'utilisation de l'argent public, et il y a des traités, des règles connues, transparentes. Je pense que c'est une des manières dont va s'engager la négociation. Ces États-là, bien sûr, naturellement, sont rétifs à un endettement commun pour des dépenses supplémentaires, mais en réalité, ce qu'ils souhaitent, c'est s'assurer qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres. J'ajoute que dans ces pays-là, il y a aussi des extrêmes droites, des coalitions, des considérations de politique intérieure.
Oui, et des opinions qu'il convient effectivement de convaincre. Est-ce que vous diriez, Daniel Cohn-Bendit, qu'on a vu d'un côté un retour de l'État, on a vu des frontières qui se sont soudain refermées, que la dynamique lancée par les Français et les Allemands est une manière finalement peut-être de sauver un projet commun qui semblait plutôt menacé par l'épidémie et qui pourrait peut-être s'en retrouver renforcé?
Le problème, en fait, c'est vrai, les petits États et tout ça, comme ça vient d'être dit, mais il y a quand même, je crois, le pays d'ailleurs qui est le plus contre les mesures, c'est évidemment, on a parlé de l'Autriche parce que le chancelier autrichien a beaucoup parlé, mais c'est surtout le Danemark, qui est un pays dont le gouvernement est mené par une social-démocrate, donc une socialiste, mais qui est, pour le dire un peu rapidement, très eurosceptique. C'est le socialisme nationaliste eurosceptique et que les Danois sont absolument contre. Et maintenant, dans le débat, si on veut, c'est aussi de quelle Europe on veut. Les Danois, comme d'ailleurs les Autrichiens, ne veulent en fait qu'un marché européen, mais ils ne comprennent pas la dynamique d'une Europe politique. Et c'est ça qui est en train de se jouer entre les propositions maintenant de la France et de l'Allemagne et la réaction des frugaux, comme cela vient de se dire.
Merci à vous, Daniel Cohn-Bendit. Merci à vous, Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman, de nous avoir ce soir accompagné dans vos réflexions.
À toi, merci.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est le grand journal du soir avec vous, François Claus. Depuis le confinement, chaque semaine, on donne la parole à un artiste.
Et quel artiste ? Il est réalisateur, il est producteur, il est scénariste, auteur d'une vingtaine de films. Monsieur Robert Guédiguian est avec nous dans un instant.
Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, il est 18h42. François Claus, c'est bien à vous donner une fois de plus ce soir la parole aux artistes.
Oui Marlène, et comme tous les samedis soirs, nous avons décidé depuis le début du confinement Europe 1 de donner la parole à des créateurs, de donner la parole à ce monde de la culture, celui qui nous déconfine en temps de non-épidémie et qui s'est retrouvé lui-même confiné depuis ce Covid-19. Et c'est pour cela Marlène que nous sommes heureux d'accueillir sur Europe 1 un homme au parcours très singulier, une vingtaine de films depuis 40 ans, il est producteur, il est scénariste, réalisateur, je disais singulier parce qu'il a sa propre économie du cinéma, il a sa troupe, ses techniciens, ses acteurs fétiches, Gérard Mélan, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin. Itinéraire singulier aussi parce qu'il nous parle dans ses films, film après film, du monde qui nous entoure. Soit pour un monde meilleur sous forme d'une fable, c'était le cas dans Marius et Jeannette, soit d'un monde plus noir qui nous entoure, comme celui de La ville est tranquille ou de ces deux derniers magnifiques films que furent La Villa et Gloria Mundi. Je suis heureux d'accueillir sur Europe 1 ce soir Robert Guédiguian. Bonsoir Robert Guédiguian.
Bonsoir.
Avant de voir avec vous le texte que vous avez choisi de diffuser, de lire à nos auditeurs, petite question aux producteurs, aux réalisateurs, aux scénaristes que vous êtes. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'être débordé, vous le créateur, par un créateur supérieur qui créerait finalement une fiction qui était celle de la réalité, encore plus forte que celle de la réalité avec ce qu'on vient de vivre?
Bien sûr, ça me renvoie même évidemment à l'Antiquité, à tous les dieux de l'Antiquité, à tous les dieux de la Grèce, du théâtre grec, je veux dire, qui probablement, là on pourrait dire, pour user d'une métaphore, qu'ils se sont fâchés, ils étaient très mécontents, mais on les a tellement provoqués. L'humanité a tellement, ces dernières années, je crois, fait de bêtises, en fait, que les dieux ont voulu prendre une espèce de revanche, ou même pas une revanche, ils restent sympathiques, en fait, les dieux, puisqu'ils nous ont donné, ils nous ont lancé un grand avertissement. Je crois qu'il faut prendre, d'ailleurs, cette période que nous venons de vivre comme un avertissement. Donc, il faut que nous changions.
Est-ce que vous avez vu également, vous, et je m'adresse toujours aux créateurs, finalement, des motifs d'espoir dans la période qu'on vient de traverser, qu'on est en train de traverser encore?
Oui. Deux en fait motifs d'espoir justement. Peut-être le premier, c'est cette solidarité qui se manifeste, mais qui se manifeste souvent dans les périodes de crise et qui en fait devrait se manifester y compris dans les périodes moins critiques. Il faudrait qu'on applaudisse les services publics toute l'année et pas seulement effectivement quand on est dans une période de crise. Je parle en particulier du milieu hospitalier, mais enfin les autres aussi. Pas que le service public d'ailleurs, les travailleurs qui étaient au front et qui ne faisaient pas partie du public, hein, je veux dire, comme évidemment les caissières des supermarchés, etc., etc. Bon, donc ça c'est plutôt pas mal, quoi, que je trouve. Hein. Ça refait société et ça refait société chez les gens qui travaillent, chez les gens humbles, chez les gens qui peinent. Ça c'est la première chose. Et le second signe d'espoir, c'est qu'effectivement le signal des dieux, dont je parlais tout à l'heure, le signe que nous ont adressé les dieux, va peut-être servir à remettre en cause justement les dogmes sur lesquels notre monde fonctionne, on va dire grosso modo depuis la crise pétrolière, c'est-à-dire depuis 50 ans, quoi, je veux dire depuis les années 70. Voilà. Donc le dogme effectivement du laisser-faire, laisser-passer au niveau international, au niveau mondial, au niveau global, comme on dit, je veux dire, est un dogme qui là, je crois, a pris un sale coup, et j'espère même que c'est un coup qui va l'achever, ce dogme-là. Parce qu'il faut qu'on passe à un autre type, quand même, de relation entre nous, entre pauvres et riches, bien entendu. Et entre pauvres et riches, c'est vrai, j'allais dire, à l'intérieur de nos sociétés, et c'est évidemment vrai au niveau international. Sans cela, je crois qu'on court des dangers peut-être encore plus graves que ce que nous venons de vaincre. Nous voulons de sortir, je veux dire. Enfin, j'espère que c'est vaincu, j'espère qu'on a vaincu.
Vous avez fait le choix, Robert Guédiguian, d'un texte qui date de 1964. Il est signé d'un grand homme de culture, c'était le ministre de l'époque, qui a posé les bases d'une vraie politique culturelle en France sur laquelle nous vivons encore. J'ai nommé Monsieur André Malraux. Vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce texte. Les auditeurs d'Europe 1, et moi le premier, nous vous écoutons, Robert Guédiguian.
Oui. Le loisir, c'est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu'il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. Bien entendu, il convient que les gens s'amusent. Mais le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'amusement. C'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions, et plus tard, par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de signification de l'homme, et il n'y a plus de signification du monde. Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans le miroir un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur Terre.
C'est donc André Malraux qui prononçait, Robert Guédiguian, ces mots. Nous étions non pas en mars 2020, mais bel et bien en 1964.
Tout à fait. Et je trouve qu'effectivement, le monde a perdu son sens. C'est pour ça, a perdu ses interprétations habituelles auxquelles nous étions, qui nous aidaient à tenir debout, et qu'il faut absolument lui en trouver une autre. C'est vrai que une autre explication, un autre sens, une autre direction. Et ça, c'est vrai que la culture nous fournit ces éléments-là, peut nous les fournir en tout cas, et de surcroît, comme il s'agit de remettre en route effectivement tout ce système, enfin le système économique en général, mais en particulier le système économique de la culture, puisque la culture, il y a aussi des gens qui en vivent, et c'est aussi une économie, je pensais qu'il était bon de citer à nouveau Malraux, qui s'inscrivait d'ailleurs, comme vous le savez, dans le sillage de Jeanne Laurent, de Villard, enfin, de toute la décentralisation. Les maisons de la culture, d'ailleurs, étaient faites pour être décentralisées. Malraux disait même pour supprimer le terme de province, en fait. On ne dira plus jamais province, parce que dans toute la France, effectivement, les gens auront accès à la même culture, au même spectacle, au même cinéma, aux mêmes expositions. Et là, je crois que c'était un programme qu'il a en partie accompli, hein, dans les années 60. C'est vrai, vous disiez à juste titre que nous vivions encore un petit peu sur ces acquis-là. Je rêve qu'il y ait un nouveau Malraux. Je rêve de beaucoup de choses, mais ça, en tout cas.
Mais c'est pour ça qu'on aime rêver avec vous et avec vos films également, Robert Guédiguian. Très rapidement, en un mot, est-ce que vous pensez que notre président a lu Malraux dans le texte, dans ce qu'il a proposé pour sauver le monde de la culture, de la période très délicate qu'il traverse?
Je crois qu'il y a eu deux choses. Il y a eu quand même quelques avancées, mais c'est, pour l'instant, ce sont des paroles. Et évidemment, comme Saint Thomas, je crois, les citoyens doivent croire que ce qu'ils touchent, hein, et non pas ce qu'on leur dit. En politique en général, d'ailleurs, il faut attendre que ce soit effectif. C'est-à-dire que la parole devienne réalité. Bon, si ça devient réalité, c'est pas mal. Alors, évidemment, par contre, je peux pas résister à me moquer un petit peu d'un certain nombre de gesticulations. Je veux dire, ça va des bras de chemise au ton, etc., tout ça. Bon, quand on parle
dans
avec,
dans la forme,
ça, tout le monde s'en est moqué. Je suis pas le premier. C'était un peu. Bon, on va dire, si, faut être gentil, c'était drôle, quoi. C'était rigolo. Mais si les mesures sont appliquées, c'est déjà pas mal. Mais évidemment, je pense à l'année blanche pour les intermittents, à des choses de ce type-là, à créer un fonds de garantie, à des commandes publiques pour les plastiques.
Un fonds d'indemnisation, voilà, pour les séries, les tournages qui étaient, voilà, en cours, un programme de commandes, voilà, publiques également pour les jeunes artistes. Grand merci à vous, Robert Guédiguian, de nous avoir accompagnés, de nous avoir lu ce texte ce soir, et puis à tous nos auditeurs, hein, confinés ou pas confinés, voyez, revoyez, Marius et Jeannette, À la vie, à la mort, La Villa ou Gloria Mundi. Merci encore, Robert Guédiguian.
Merci beaucoup.
Il est 18h53 et nous sommes avec vous, François Claus, jusqu'à 20h sur Europe 1. Place maintenant à notre rendez-vous de chansons dans la tête, au cœur de ce grand journal du soir.
Et Marlène, si je vous dis pâtre grec, juif errant... Non, ne dites pas, François Claus, je sens trop mal. On va dire, bien sûr, un très grand de la chanson française, Monsieur Georges Moustaki,
oui,
qui nous a quittés il y a 7 ans, jour pour jour. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir François et bonsoir à tous.
C'est un grand, un très grand de la chanson française.
C'est un immense grand auteur, compositeur, interprète originaire de Grèce. Cet artiste est arrivé en France en 1951 et il nous a laissé quelques grands chefs-d'œuvre comme ce succès d'Édith Piaf.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable.
Et oui, peu de gens peut-être le savent, mais cette chanson légendaire, hein, Fabien, de l'histoire de la chanson française, chantée par Piaf, eh bien, elle est écrite par Moustaki. Racontez-nous cette rencontre improbable, Moustaki-Piaf.
Alors en fait, la rencontre s'est faite à la fin des années 50. Édith Piaf est une immense star internationale dont la carrière se joue entre la France et l'Amérique, il faut le rappeler. Et malgré une santé de plus en plus déclinante, on va dire, la chanteuse continue d'enchaîner les concerts et les succès. Et c'est à cette époque justement qu'un ami, guitariste de jazz, lui présente un jeune artiste, auteur-compositeur d'origine grecque, qui tente depuis son arrivée à Paris en 1951 de se faire un nom dans le spectacle. Et ce grand jeune homme d'à peine 24 ans s'appelle Georges Moustaki. Et Piaf toujours très attiré par le charme latin, ne va pas tarder à succomber à sa beauté. Alors avec le dévouement d'une femme amoureuse, la chanteuse va alors faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider Georges Moustaki à s'imposer. Elle l'engage comme guitariste dans ses spectacles et lui demande aussi d'écrire des chansons pour elle en lui donnant quelques orientations. Alors l'auteur va lui écrire un texte qui évoque le souvenir d'un Milord anglais. En le découvrant, Piaf n'est pas très satisfaite de ce texte, mais en revanche, elle trouve le mot Milord très intéressant et demande à Georges de revoir sa copie en axant les paroles autour du mot Milord qui pour elle sonne bien. Et c'est au cours de l'été 1958, François, entre deux dates de tournée, dans sa chambre de l'hôtel Majestic à Cannes, que Georges Moustaki écrit rapidement, avec la machine à écrire que lui a offert Edith, un nouveau texte intitulé Milord. Il relate la rencontre entre une prostituée et un riche Milord en mal d'amour. Et cette fois, Piaf adore et demande aussitôt à sa fidèle compositrice Marguerite Monod de trouver une musique. Alors au bout d'un an de fougueuse liaison avec Piaf, ils se séparent évidemment. Elle est amoureuse d'un autre beau jeune homme. Moustaki dira plus tard à la journaliste Sophie Delassin, Brassens était mon maître, Piaf a été ma maîtresse.
C'est une très très belle histoire. Oui.
Cette histoire, François, avec Edith Piaf, qui avait 19 ans de plus que lui, lui a inspiré la chanson « Sarah », magnifiquement interprétée par Serge Reggiani.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donné, le table à faire.
Un véritable chef-d'œuvre hein, que cette Sarah interprétée par Reggiani, dont on ne savait pas forcément qu'elle était écrite par Moustaki. Mais Moustaki n'a pas écrit que pour Piaf et Reggiani, Fabien.
Effectivement, François, tout au long des années 60, Georges Moustaki a composé et écrit des chansons pour de grands artistes français comme Yves Montand, Barbara, pour qui il écrit d'ailleurs La Longue Dame Brune en 1967. Mais bien sûr, il reste fidèle à son interprète Serge Reggiani, avec qui il devient très ami et pour lequel il écrit plusieurs succès, dont Ma Liberté en 1967 toujours, reprise avec succès en 2012 par Chimène Badi.
Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, oh ma dernière chemise.
C'est fou, Fabien, comment les textes de Moustaki ont traversé les temps et l'histoire. Et puis n'oublions pas que Moustaki, bah, il a interprété ses propres textes.
Et oui, parce qu'il devient aussi son propre interprète. Et parmi ses premiers grands succès en 1969, il crée bien sûr le Métèque.
Avec ma gueule de Métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Et nous ferons toute une éternité d'amour, Fabien.
Oui, c'est exactement ça. Alors, il faut rappeler quand même que Georges Moustaki hésite, parce que ses premiers essais au début des années 60 n'avaient pas été des réussites. Il finit quand même par céder au directeur artistique Jacques Bedos, de chez Polydor, et enregistre plusieurs chansons, dont le Métèque, bien sûr. Ce titre a démarré par une histoire d'amour. En effet, au début des années 60, Georges Moustaki est amoureux d'une jeune fille dont les parents voient d'un très mauvais œil la relation avec l'artiste. Et un jour, François, tenez-vous bien, ils en arrivent même à traiter Georges de Métèque. Et plutôt que d'être blessé et vexé, Moustaki trouve que ce mot sonne bien et décide, en rentrant chez lui, d'en faire tout simplement une chanson. Alors sorti juste après mai 68, avec cette chanson, Georges devient le représentant de toute une jeunesse contestataire et sa chanson, une référence contre le racisme et pour la tolérance.
Et oui, il y a la figure du chanteur, il y a la figure aussi de l'homme qui a traversé l'histoire de son temps. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre de nous avoir accompagnés dans ce beau parcours autour de Monsieur Georges Moustaki.
Merci François et à demain. Demain, je vous parlerai évidemment du groupe Indochine.
Et on sera bien sûr à l'écoute avec vous. Au sommaire de la deuxième heure de votre grand journal du soir, nous ferons le point sur la pandémie et les questions autour de l'hydroxychloroquine. Avec Raphaël Pitti, Frédéric Dabi nous dira pourquoi nous allons voter le 28 juin prochain. Et puis avec Pierre Herbulot, déjà une recette que vous ferez. Restez bien à l'écoute à domicile dès ce soir, j'en suis sûr. Mais pour le moment, c'est l'heure du journal avec vous, Sophie Echen. Bonsoir Sophie.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 19h.
Bon, c'est fantastique, hein. Le fait de revoir plein de clients qui viennent de l'étranger, c'est une super nouvelle parce que c'est le poumon de cette ville.
L'Espagne prête à accueillir de nouveau les touristes étrangers. Ça sera possible à partir du mois de juillet, annonce du gouvernement.
C'était une attente des fidèles. Les cérémonies religieuses reprennent aujourd'hui, mais les responsables des cultes appellent à ne pas se précipiter.
C'est une étape importante psychologiquement et spirituellement. Tous les fidèles le disent. Nous avons hâte de nous retrouver physiquement ensemble.
Les maires élus dès le premier tour accèdent enfin à leurs fonctions. À Tourcoing, Gérald Darmanin décide de conserver également son poste de ministre de l'Action et des Comptes Publics.
C'est l'une des conséquences de la crise du Covid-19. Le loueur de voitures Hertz est en grande difficulté et se déclare même en faillite outre-Atlantique.
Ce long week-end de pont n'est pas terminé, mais le premier bilan est positif. Globalement, les Français sont disciplinés en matière de déplacement et de rassemblement.
Et puis le cri d'alarme du monde du livre, éditeurs, libraires et écrivains, ils réclament un plan pour sauver la filière.
Il y a des gens qui ont découvert le livre et le bon livre à la faveur du confinement. Donc il est étonnant que dans son plan de relance de la culture, la littérature ait été passée sous silence.
Voilà pour les titres, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'Espagne, très endeuillée par l'épidémie de coronavirus avec plus de 28 600 décès, se prépare donc au retour des touristes étrangers.
Ceux-ci seront accueillis à partir du mois de juillet, annonce du Premier ministre Pedro Sanchez cet après-midi. Henri de Laguérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Le Premier ministre affirme que le plus dur de la crise est passé. Le pays est donc prêt à rouvrir ses frontières.
Eh oui, car le tourisme est un secteur vital de l'économie espagnole. Il représente 13% des emplois. L'Italie et la Grèce avaient déjà annoncé la réouverture de leurs frontières dans les prochaines semaines. L'Espagne risquait d'être à la traîne. Pour Marco Exposito, patron du Café Blue à Barcelone, très fréquenté par les touristes, c'est un immense soulagement.
Bon, c'est fantastique, hein. Le fait de revoir plein de clients qui viennent de l'étranger, c'est une super nouvelle parce que c'est le poumon de cette ville. Hein. Et bon, c'est une ville fantastique, Barcelone, parce qu'on a la mer. C'est une des villes où les gens viennent le plus en Europe. Et oui, on est vraiment très heureux de reprendre le business. Ouais.
Pedro Sanchez invite donc les étrangers à réserver dès maintenant leurs vacances. L'Espagne est la première destination des Français à l'étranger. Mais attention, de nombreuses mesures de sécurité seront mises en place. On les connaîtra dans les prochains jours. Mais les voyageurs devront sans doute se soumettre à des contrôles de température à la sortie des avions, même s'il n'y aura pas de quarantaine. Pour éviter les agglomérations, les accès aux plages seront réglementés. L'enjeu pour l'Espagne désormais, c'est de se présenter au monde comme une destination touristique sûre d'un point de vue sanitaire.
Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. En France, le déconfinement se poursuit. Les cérémonies religieuses reprennent aujourd'hui avec des mesures sanitaires strictes.
Port du masque, distanciation physique et filtrage à l'entrée des lieux de culte, des consignes indispensables pour assurer le bon fonctionnement des messes, estime l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun.
Dans le diocèse de Rouen, les messes reprendront ce dimanche 24 mai, à condition que les communautés soient prêtes à vivre sereinement et en respectant les consignes sanitaires indispensables. Pour moi, le culte reprend progressivement. Et bien entendu, les fidèles doivent réfléchir si elles-mêmes sont en état de santé, d'âge, pour participer au culte, car nous savons que toute réunion est aujourd'hui un risque. Je pense que c'est une étape importante psychologiquement et spirituellement. Tous les fidèles le disent, même s'ils veulent encore prendre des précautions, même si peut-être ils ne seront pas là demain ou à la Pentecôte, ils le disent, nous avons hâte de nous retrouver physiquement ensemble. Donc c'est certainement une étape qui doit contribuer à l'effort national de reprise.
Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot.
Et puis, Sophie, la vie démocratique a elle aussi repris son cours aujourd'hui. Les maires, élus dès le premier tour, ont commencé à prendre leurs fonctions plus de deux mois après les élections municipales.
Et à Tourcoing, c'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a donc revêtu son écharpe de maire. Il annonce qu'il gardera pour l'instant la double casquette, ce qui met à mal la règle tacite du non-cumul des mandats, Jean-Rémy Baudeau.
Pour l'opposition à Tourcoing, l'angle d'attaque est tout trouvé.
Il est pour nous inconcevable et démocratiquement dangereux que vous, qui avez fait votre campagne sur le choix de Tourcoing, puissiez en conscience, en responsabilité, accumuler ces deux fonctions.
Des divers gauches au Rassemblement National, en passant par les écologistes, tous fustigent les deux postes de Gérald Darmanin. Rien d'interdit par la loi, mais le ministre maire répond sans sourciller.
J'entends que vous souhaitiez me garder pour vous tout seul. Vous m'aimez sans doute tellement que vous souhaitiez qu'à plein temps je m'occupe de vous. Qui ne s'est pas posé la question, et le choix de Tourcoing n'était pas un slogan de campagne, puisque j'ai tenu ma promesse et je suis maire devant vous.
Probablement pour éviter d'être accusé de privilégier l'appât du gain au service de ses concitoyens, Gérald Darmanin aborde spontanément la question de ses indemnités.
Je voudrais préciser à l'Assemblée municipale que je ne toucherai évidemment pas mes indemnités de maire si je continue effectivement à être en situation de cumul, et je verserai l'équivalent de l'indemnité de maire chaque mois, ou peut-être à la fin de l'année, à la Société protectrice des animaux.
Mais combien de temps cette situation peut-elle durer? Au moins un temps, confie le ministre, qui peut se prévaloir du feu vert d'Emmanuel Macron en personne. Un temps, c'est l'option partagée actuellement au sein de l'exécutif. Une double casquette pour Darmanin avant un éventuel prochain remaniement.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin, à condition que l'épidémie ne redémarre pas. La baisse
On
du nombre...
On évoquait tout à l'heure à 18h15 des difficultés, Sophie, du monde de l'automobile, l'un des secteurs les plus touchés par la crise. Eh bien, s'il y est une illustration ce soir, l'un des géants de la location de voitures dans le monde, Hertz, est durement impacté par la crise sanitaire.
L'entreprise se déclare en faillite aux États-Unis et au Canada. Objectif, limiter la casse et éviter la liquidation, car le loueur est très mal en point, Élise Dangean.
Oui, c'est le cas de le dire. Imaginez un peu, près de 700 000 véhicules en grande partie inutilisés, une dette qui avoisine les 19 milliards de dollars et, conséquence directe, 20 000 salariés licenciés depuis le début de la crise. C'est presque la moitié des effectifs mondiaux du groupe. La pandémie a donc mis un gros coup d'arrêt à l'activité du loueur et la direction de Hertz ne semble pas très optimiste. Elle craint que la reprise tarde à se concrétiser, notamment à cause de la généralisation du télétravail et donc de la perte d'une bonne partie de sa clientèle d'affaires. Alors pour l'heure, cette mise en faillite ne concerne, vous l'avez dit, que les États-Unis et le Canada, épargnant ainsi les principales régions opérationnelles du groupe, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais pour combien de temps, c'est la question. En tout cas, tout le secteur se porte mal. Les loueurs réduisent donc drastiquement leur flotte, ce qui aura évidemment des répercussions sur les constructeurs automobiles déjà très durement frappés par cette crise.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Emmanuel Macron, lui, fera mardi d'importantes annonces dans le cadre d'un plan de soutien à la filière automobile. Un plan qui vise notamment la transition vers les véhicules propres et la souveraineté industrielle.
En France, le week-end prolongé de l'ascension se poursuit. La tentation de partir se mettre au vert est grande, mais attention, il faut respecter la règle des 100 km pour tous vos déplacements.
Les forces de l'ordre sont mobilisées pour procéder au contrôle. Dans l'ensemble, les Français ont plutôt bien respecté les règles, reconnaît Yves Lefebvre. Il est secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO.
Les Français ont quand même fait preuve d'énormément de civisme et mes collègues ont également fait preuve de beaucoup de discernement. Vous savez, la barrière des 100 km, elle est à vol d'oiseau, mais on n'a pas de capacité à la mesurer. Donc il faut faire appel au bon sens. Voilà, il faut tout mettre ça dans un cadre général et ne pas rentrer dans une doctrine trop fermée qui serait contraire à l'esprit du déconfinement d'ailleurs.
On a vu ces derniers jours, par exemple à Paris, beaucoup d'apéros en plein air, des gestes barrières qui ne sont pas respectés. Et là aussi, c'est la police qui intervient pour faire respecter ces règles. Est-ce que ça crée des tensions avec la population ?
Ça n'a pas créé à proprement parler de tensions. Prenez, pour exemple, ce qui s'est passé sur le bord du canal Saint-Martin. Oui. Mes collègues sont intervenus, mais ça a été bon enfant, parce que derrière le policier ou le gendarme, il y a un homme, il y a une femme qui lui aussi aspire à des moments de détente. Alors non, ça se passe globalement très très bien, sans aucune tension, et on ne peut que s'en féliciter.
Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP Police FO, il était l'invité du journal de la mi-journée sur Europe 1.
Et puis cet appel d'un collectif de professionnels du secteur, le monde du livre est en danger.
625 éditeurs, auteurs, libraires, ils publient une tribune aujourd'hui dans Le Monde. Ils demandent à Emmanuel Macron d'agir pour sauver la filière très durement touchée par la crise. L'un des signataires, l'auteur Yann Kefelec, prix Goncourt 1985, réclame un plan de relance ambitieux avec une aide de plusieurs centaines de millions d'euros.
Il y a des gens qui ont découvert le livre et le bon livre à la faveur, si on peut appeler ça une faveur, du confinement. Donc il est étonnant que dans son plan de relance de la culture, la littérature ait été passée sous silence. D'autre part, la littérature, c'est tout un univers professionnel qui est au service du livre et qui se voit mis en panne par le comportement de l'État actuellement. Il faut de l'argent, bien évidemment. Il faut soutenir la librairie, les éditeurs, il faut soutenir les écrivains, il faut soutenir les médiathèques, les bibliothèques, il faut soutenir la culture de ce pays, soutenir l'idée même qu'on se fait du peuple français à travers sa littérature. Il ne suffit pas de redresser économiquement le pays, il faut aussi le redresser sur un plan culturel, sur le plan de sa dignité par la culture, parce que la littérature, c'est aussi la joie de vivre qui est indispensable à l'avenir.
Voilà l'appel à l'aide de Yann Kefelec, des propos recueillis par Jian Bergaoui.
Et des propos qu'il faut retenir, bien sûr. Merci beaucoup, Sophie Echen.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadeB, produit de fabrication française. ArcadeB vous présente la météo.
Et la météo, Valérie Darmon, beau à peu près partout, à l'exception peut-être d'un petit tiers nord-est de la France.
Tout à fait, de l'intérieur de la Bretagne au Grand Est, en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne, les passages nuageux jouent avec les éclaircies sous la fraîcheur matinale avec 5 à 10 degrés seulement à vos thermomètres. À partir du bassin aquitain jusqu'aux Pyrénées et massifs alpins, le ciel est par moments à peine voilé, un peu plus menaçant en fin de journée en montagne. Les maximales afficheront 20 à 28 du nord au sud l'après-midi, avec des pointes à 30 dans l'arrière-pays méditerranéen.
Une météo qui se calme donc pour demain. Merci Valérie Darmon. Le grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec vous François Claus. À suivre.
Et dans un instant, effectivement, nous recevons Raphaël Pitti, médecin humanitaire, le point sur la pandémie et l'inquiétude pour l'Amérique du Sud qui monte.
Il est 19h13, la pandémie toujours au cœur de ce grand journal du soir avec vous François Claus.
Et avec Raphaël Pitti. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Vous êtes médecin humanitaire, anesthésiste, réanimateur. On se souvient que vous aviez apporté tout votre renfort au service de réanimation du CHR de Metz et de Thionville lorsque la région Grand Est était durement touchée par l'épidémie. Le chiffre, oui. Raphaël Pitti, est tombé il y a quelques minutes. 1665 malades en réanimation à l'heure où nous parlons en France. La baisse se confirme donc. Est-ce que c'est la fin, oui, de l'épidémie ?
Oui, je pense que c'est la fin de l'épidémie et le fait que dans les services de réanimation, il n'y a plus de malades, mais qu'on a encore, bien évidemment, les patients qui ont été pris en charge au début de l'épidémie. Malheureusement, ce sont des patients qui ont entre 30, 40, 50 jours de réanimation et qui font face maintenant à toutes les complications de la réanimation au long cours, surtout que la plupart de ces patients sont âgés et ont des maladies chroniques. Et donc, il faut s'attendre, au contraire, à voir augmenter peut-être le chiffre de mortalité, alors même que les chiffres des séjours en réanimation vont baisser. Mais nous n'avons plus, aujourd'hui en tout cas dans le Grand Est, de nouvelles hospitalisations en réanimation. Ou alors c'est quelquefois des malades qui sont encore du Covid, hospitalisés dans les services Covid, qui décompensent et qui viennent en réanimation. Mais plus de patients qui viennent de l'extérieur au sens propre.
C'est bien noté. On voit apparaître, Raphaël Pitti, ce qu'on appelle des clusters, des zones ici et là d'infection. On l'a vu avec les abattoirs, on l'a vu là dans une église à Francfort, oui, en Allemagne. J'allais dire, c'est la vie normale de l'épidémie.
Oui, je pense que on va vivre avec le Covid de cette manière, c'est-à-dire l'apparition de foyers itératifs et avec lesquels aujourd'hui, bien sûr, du fait de la mise en place de la veille qui a été organisée par le gouvernement, cela permet justement, dès l'instant où apparaît un premier cas, de pouvoir le circonscrire et de maîtriser ce foyer pour ne pas qu'il s'étende. De surcroît, on voit dans l'ensemble de la France maintenant, même pour nous, la région Grand Est, les chiffres de référence devraient nous permettre de devenir vert, une zone verte. Donc manifestement, nous avons passé la grande vague épidémique. Pour savoir s'il y aura une deuxième vague épidémique, au sens propre, il faut au moins attendre, le 11 mai a été le déconfinement, il faut savoir attendre 2 à 3 semaines pour savoir si nous devons être confrontés à une nouvelle vague, puisque c'est le temps d'incubation du Covid, de l'infection au Covid. Mais je pense que dans la semaine qui vient, nous saurons qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais que nous allons faire face. Et pour cela, il faut apprendre à vivre avec le Covid de cette manière, c'est-à-dire à être prudent, de continuer à respecter les consignes de distanciation, et pour faire en sorte justement qu'il ne réapparaisse pas. Mais peut-être que je me permettrais d'aller un peu plus loin.
Allez-y.
C'est le fait de remarquer que peut-être nous sommes devant une infection virale de type saisonnière. C'est-à-dire que nous arrivons vers le beau temps et que le virus aurait plutôt tendance à se multiplier et à se propager en zone hivernale plutôt qu'en zone estivale. Et donc, ce qui peut expliquer ce qui est en train de se passer en Amérique du Sud.
Oui, j'allais vous poser la question parce qu'il y avait une crainte mondiale au niveau du continent africain. Oui. Alors, on n'a pas tous les chiffres en Afrique, oui. Mais visiblement, les services d'urgence des hôpitaux africains n'ont pas été débordés. En revanche, effectivement, alors oui. Que c'est l'hiver actuellement en Amérique du Sud, oui. On a vu le Chili qui a déconfiné, qui reconfine, l'épidémie oui. Qui galope avec oui. La conséquence de Bolsonaro au Brésil et le Pérou qui a beaucoup de mal également.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, c'est à craindre pour nous. S'il doit y avoir un nouveau pic épidémique, eh bien, nous le saurons en automne et jusqu'en janvier-février, comme ça a été le cas cette année. Et donc, il semble bien que nous ayons à faire face à une maladie saisonnière. Et ce qui va être compliqué, c'est de faire la distinction au mois d'automne, octobre, novembre, entre la grippe saisonnière et le coronavirus. Et donc, vraiment, il est très très important que la population puisse se vacciner en masse, puisque si nous n'avons pas de vaccin contre le coronavirus, nous avons un vaccin contre la grippe. Et pour ne pas confondre l'un avec l'autre, surtout sur ceux qui sont asymptomatiques et qui pensent qu'ils ont une grippe alors qu'ils ont un coronavirus. Et donc, ce sera vraiment là un problème assez difficile. En tous les cas, il faudra être très prudent au moment de l'automne.
Oui, c'est bien que vous lanciez d'ores et déjà ce message qu'il faudra évidemment répéter d'ici là. Le médecin que vous êtes, Raphaël Pitti, ne s'inquiète pas trop de voir ce désir de liberté, ce désir d'aller sur les plages, de refaire du sport qui anime les Français après plus de 2 mois de confinement. Vous estimez qu'il y a nationalement maintenant la prise de conscience du mal ?
Oui, il y a une prise de conscience du mal, mais il y a au même temps ce désir que l'on voit toujours après les situations de catastrophe, au même temps cette résilience, le désir de la vie, le désir de vivre, le désir de profiter de cette vie. Le Covid a mis en évidence très nettement la relativité même de la vie. Les choses ne sont pas pérennes, les choses ne sont pas permanentes. Et donc, il y a à la fois, et la jeunesse l'a ressenti d'être enfermée pendant cette période avec ce risque du Covid. Et donc, c'est une réaction qui est normale. Bien évidemment, il faut attendre quelque temps que retombe un peu cette volonté de vivre qui apparaît, qui est profonde, un désir de profiter de la vie, de retourner dans les restaurants, d'aller dans les bars, de ressortir, d'aller au bord de la mer, etc. Cela va bien évidemment retomber. Et après, peut-être, durant cette période-là, il faudra être extrêmement vigilant pour faire comprendre qu'il y va de la responsabilité de chacun pour soi et pour les autres, bien entendu, de rappeler sans cesse jusqu'à ce que nous apprenions encore une fois à vivre avec le Covid, c'est-à-dire à vivre avec ces consignes. Elles sont introduites dans notre société, ces consignes-là, et il faudra que nous apprenions à les respecter jusqu'à ce que nous ayons un vaccin.
Le message est d'ores et déjà passé. Dernière question un petit peu rapide, là je m'adresse à l'anesthésiste réanimateur. On a eu une étude publiée aujourd'hui par le très sérieux journal Lancet à propos de l'hydroxychloroquine et saisine de la Haute Autorité de la Santé par le ministre Olivier Véran, où il s'avère qu'il y aurait donc bel et bien des effets éventuellement dangereux en réanimation.
Mais ça, nous le savions depuis le début, ce produit, l'hydroxychloroquine et la chloroquine elle-même peuvent entraîner des troubles au niveau du rythme cardiaque. Et donc, ça, nous le savions déjà depuis très longtemps. Les doses qui sont données autour de 400 à 600 mg par jour contre les 100 mg qui sont données dans la prévention du paludisme, bien évidemment, ne font qu'augmenter le risque de troubles cardiaques. Ça, nous le savions déjà depuis longtemps. C'est tout ce qui me paraît scandaleux, c'est le côté irrationnel de ce qui s'est passé avec Monsieur Raoult et avec le Haut Conseil scientifique. Tout ça est totalement irrationnel et depuis le début alimenté bien sûr par la médiatisation qui a été portée de cette affaire. Nous sommes au niveau de l'hôpital restés prudents. Il y a eu une mise en place en permanence d'un suivi parce que nous étions confrontés à une pathologie que nous ne connaissions pas et donc il était très important que nous gardions le contact entre tous les centres scientifiques de manière à ce que nous ayons les meilleures recommandations possibles pour assurer le meilleur traitement de nos patients. Et en fin de compte, ça, c'était peut-être la chose la plus importante. Ce que nous apporte, en tous les cas, cela permet une bonne fois pour toutes de clore ce dossier Raoult, à mon avis. Enfin, je l'espère. Je ne connais pas très bien le personnage, mais en tout cas, j'espère que ce sera une affaire finie. Ce qui reste maintenant un souci, c'est le vaccin. Moi, je m'inquiète d'un vaccin qui soit produit en 18 mois, quand on sait qu'il faut 10 ans pour le faire. Et je serais très curieux de savoir si nous accepterons d'emblée qui va se proposer de recevoir ce vaccin parmi les premiers, pour être en n'étant pas certain peut-être de la nocivité de ce vaccin. Je pense que l'effort doit être porté sur une thérapeutique. Il n'y a en vérité que 10% des patients qui sont graves et qui nécessitent un traitement spécifique du Covid. Il faut impérativement que nous puissions trouver le traitement le plus efficace possible. On y est presque au traitement efficace. Et de ce fait, il faut se donner du temps pour avoir aussi un vaccin efficace et non dangereux pour l'ensemble de la population.
Et on a noté votre appel d'ores et déjà à se vacciner contre la grippe pour un éventuel retour de cette épidémie qui pourrait donc être une épidémie saisonnière. Un grand merci à vous, docteur Raphaël Pitti, de nous avoir accompagnés sur Europe 1 ce soir.
18h-20h, le grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous François Claus.
Et c'est l'heure, comme tous les samedis, de l'écho de la planète, le journal de l'environnement, présenté chaque semaine par Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir François, bonsoir à tous. À la une, pas de traces du coronavirus dans l'eau de mer sur les plages françaises, selon une étude de l'IFREMER. Le trafic des gaz réfrigérants, peu connu, mais 15 000 fois plus polluant que le CO2. Et puis de grandes enseignes britanniques comme Burger King ou Marks & Spencer menacent de boycotter le Brésil en raison d'un projet de loi qui favoriserait encore davantage la déforestation.
Partout, les plages ont ouvert ce week-end et je renvoie d'ailleurs au très beau papier, très documenté sur le site d'Europe 1, département par département. Vous avez toutes les plages ouvertes ce week-end en France. Partout, les plages ont ouvert ce week-end, on peut se tremper sans crainte, c'est ce que dit Virginie Liffremer.
Oui, il y avait un doute parce que des chercheurs avaient détecté les traces du coronavirus dans les eaux usées. Les scientifiques de l'Liffremer ont donc fait des analyses sur des échantillons d'eau de mer dans toutes les zones maritimes de France, de la Manche à la façade atlantique et jusqu'en Méditerranée, à proximité des rejets d'eau usée et même des tests PCR, vous savez, comme ceux qui servent à détecter le virus sur les humains, mais ces tests ont été cette fois réalisés sur des tissus digestifs d'huîtres, de palourdes et de moules, et les résultats sont très rassurants selon la virologiste Soizic Le Guyader.
Pour le moment, dans les coquillages, nous n'avons jamais détecté de SARS-CoV-2. Surtout pour cette étude, nous nous sommes mis vraiment dans des zones très contaminées. On a maximisé les chances de trouver du virus parce que les coquillages ont cette capacité de filtrer tout ce qui est petites particules. Et en particulier lorsqu'il y a de la matière organique pour se nourrir. Et donc pour nous, ce sont des bons intégrateurs en fait de la contamination qui peut passer.
Alors prouver l'absence réelle du virus est un art difficile, avoue la chercheuse. Ces équipes vont donc poursuivre leurs prélèvements sur les mêmes sites tous les 15 jours pendant encore plusieurs mois.
C'est un trafic assez peu connu, il faut bien le dire, mais d'une énorme ampleur, celui des gaz réfrigérants. 15 000 fois plus polluant que le CO2.
Oui, c'est une enquête de nos confrères du journal Le Monde qui révèle la persistance de ce trafic ces derniers mois. Pour vous donner une idée, l'an dernier, ces gaz HFC, c'est l'équivalent des émissions annuelles de CO2 de 3,5 millions d'automobiles qui ont été importés illégalement en Europe. Alors ces gaz, ils sont utilisés essentiellement dans les climatisations de voitures, d'appartements ou dans les réfrigérateurs. Quand les appareils fuient ou quand ils sont relâchés sauvagement dans l'atmosphère, c'est là qu'ils deviennent très nocifs pour l'environnement. Alors une législation européenne vise à réduire leur usage de près de 80% d'ici à 2030. Il y a aussi des règles qui s'appliquent au niveau mondial, mais le calendrier est différent selon les pays. Donc il y a des pays comme la Chine, où la production n'est pas chère et pas encore interdite, d'où le trafic. La solution, ce serait de passer à un produit moins polluant. Il existe, ce sont non pas les HFC, mais les HFO, les hydrofluoroléphines. C'est faisable pour les produits neufs, mais pas encore, par exemple, pour les climatisations de voitures actuellement en circulation. On n'a pas trouvé la solution technique pour remplacer ce dispositif de gaz réfrigérant.
À l'étranger, on retiendra ces grandes chaînes de magasins britanniques qui menacent de boycotter les produits brésiliens.
Oui, ils sont fortement préoccupés par un projet de loi qui risque de favoriser encore davantage la déforestation de l'Amazonie. Alors ces produits brésiliens, ce sont de l'or, du soja, du bois, de la viande ou du café qu'ils importent. Et les 40 grandes enseignes qui brandissent cette menace sont notamment Marks & Spencer, Burger King Angleterre ou Sainsbury. Il faut dire que la déforestation atteint des records ces derniers mois. Depuis janvier, les observations par satellite montrent que plus de 1200 km² viennent d'être défrichés. C'est 55% de plus que sur la même période l'an dernier.
Et voici le conseil de votre copine Catherine.
Alors Catherine souligne le point positif de cette crise pour elle, le télétravail. Positif pour la qualité de vie des Français, mais évidemment aussi pour la planète à qui on épargne la pollution des transports inutiles. À la Caisse nationale d'assurance maladie où travaille Catherine Margne, c'est colossal, 65 000 salariés s'y sont mis quasiment du jour au lendemain. Et la direction a proposé à ceux qui en avaient assez de travailler de chez eux de revenir au bureau. Résultat, c'est intéressant, à peine quelques centaines de salariés ont choisi de revenir. Alors pour elle, on ne peut plus faire marche arrière sur le télétravail, mais attention, dit Catherine, le vrai télétravail, c'est d'avoir le choix. On vient au bureau seulement quand on veut, ça ne fonctionne pas si le planning est imposé.
Grand merci à vous pour cet écho de la planète que vous nous renvoyez chaque samedi, Virginie Salmen. À la semaine prochaine.
Bonsoir.
Et dans un instant, François, le rappel des grands titres de l'info de ce samedi et puis l'œil de Frédéric Dabi.
Oui, un œil toujours averti. Nous parlerons des élections le 28 juin et la figure d'un homme très engagé, M. Michel Piccoli.
19h30 quasiment, vous écoutez François Claus jusqu'à 20h sur Europe 1.
Et on va surtout écouter Sophie Echen pour le rappel des grands titres de l'actualité, Sophie.
Oui, François, la baisse du nombre de malades en réanimation se poursuit en France. 1665 patients, c'est 36 de moins en 24 heures. Près de 28 300 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie dans l'Hexagone. Plus de 5 millions de cas ont été officiellement déclarés dans le monde. Emmanuel Macron annoncera mardi un plan de soutien à la filière automobile durement impactée par la crise. Un plan qui vise à la souveraineté industrielle, à la transition écologique, mais aussi à préserver la compétitivité du secteur. Après deux mois d'arrêt, les cérémonies religieuses ont repris aujourd'hui. Les responsables de lieux de culte doivent s'assurer que les fidèles respectent bien les mesures barrières, à savoir le port du masque, la distanciation physique et la désinfection des mains. Olivier Véran saisit le Haut Conseil de la Santé publique après la publication d'une étude dans la revue scientifique The Lancet, une étude qui alerte sur l'inefficacité et les dangers de l'hydroxychloroquine, avec un risque accru d'arythmie cardiaque et de décès chez les patients hospitalisés. Le Premier ministre espagnol annonce la reprise de la Liga à partir du 8 juin, deuxième championnat de football majeur européen à reprendre après la Bundesliga allemande. Le gouvernement qui annonce également la reprise du tourisme en Espagne. Les touristes étrangers pourront revenir dans le pays à partir du mois de juillet.
Merci Sophie Echen.
Et voici comme chaque samedi dans ce grand journal du soir, l'œil de Frédéric Dabi.
Et oui, Marlène, avec l'œil toujours aussi averti de notre ami Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Il dirige également le département études, opinion et stratégie au sein de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Le Premier ministre a donc tranché, enfin, ou presque, deuxième tour des élections municipales avortées pour cause de Covid le 22 mars dernier pour le 28 juin prochain, sauf si entre-temps la situation sanitaire devait se dégrader. Les Français, par rapport à ce deuxième tour des élections, comment réagissent-ils, Frédéric Dabi?
Déjà, François, les Français se trouvent face à un cas inédit dans l'histoire des élections, avec un scrutin inachevé pour cause de confinement qu'il faut désormais solder. On les a interrogés cette semaine avec Fiducial pour CNews, et les Français sont très partagés sur la tenue d'un second tour fin juin. L'enquête a été faite avant l'annonce de vendredi par le Premier ministre. Les Français se disent favorables à 51% un deuxième tour fin juin, une adhésion qui croît avec l'âge, qui est très majoritaire chez les personnes âgées, qui constituent le segment qui va le plus voter, qui est moins forte en région parisienne qu'en province et qui est majoritaire dans tous les partis politiques, sauf les sympathisants de la France Insoumise et du Rassemblement National.
51% de Français favorables, disiez-vous Frédéric Dabi, à ce deuxième tour, ça veut dire qu'un Français sur deux est malgré tout très, très sceptique. On sent un pays très divisé, Frédéric.
Oui, ce résultat serré, on peut en dire plusieurs choses. D'abord, il contredit un discours médiatique qui présentait des Français qui avaient peur d'aller voter. Au contraire, dans un contexte de déconfinement jugé réussi, on voit que l'optimisme remonte, plus 9 points dans une enquête de l'IFOP avant et après le 11 mai, on sent que les Français sont plus enclins à aller voter, mais ce résultat serré est également le reflet d'une certaine indifférence de l'opinion publique avec ce scrutin qui a été stoppé net et qui apparaît moins prioritaire que d'autres sujets, notamment les questions économiques et sociales avec ce chômage de masse qui se profile.
On voit bien là, à travers ce résultat, finalement, ce qui traverse la société française en ce moment, Frédéric Dabi, on a un rapport à la vie démocratique qui, avec le confinement, a été quelque part altéré, modifié.
Oui, c'est intéressant de voir que ce sujet, un simple second tour, questionne beaucoup de choses. D'abord, notre rapport, vous le disiez François, à la vie démocratique. Quand un déconfinement se poursuit, se déroule peu ou prou correctement, on débat de la réouverture des lieux de culte, des lieux de vie, des cafés, des restaurants. La question est à quelle date la vie démocratique doit-elle reprendre, et cette vie démocratique est matérialisée par l'élection des représentants. Et puis ce sujet questionne aussi sur notre rapport au risque. Doit-on solder ce premier tour et donc achever ces élections en faisant confiance à la capacité des Français à respecter les gestes de protection, quitte à accepter un risque mesuré, je le dis très librement, le risque zéro n'existait pas, ou bien mieux valait-il adopter une posture de prudence absolue, reporter ce deuxième tour à septembre, à janvier, à mars prochain, alors en méconnaissant la situation sanitaire à ces dates. C'est un argument très fort qu'a donné vendredi le Premier ministre. Qui peut savoir quelle sera la situation sanitaire dans 3, 6 ou 9 mois? En tout cas, il y a une conséquence. Il y a des conséquences très fortes d'une élection qui ne se ferait pas le 28 juin. D'abord, ça impliquerait de refaire les deux tours pour les 4902 villes concernées, et donc de créer une inégalité de fait entre les maires élus au premier tour en mars et ceux qui pourraient l'être en 2021. Surtout, François, il y a un argument économique. Tout ça bloquerait fortement le fonctionnement des métropoles, des intercommunalités qui sont capables, par la commande publique, à travers des commandes de projets, de BTP, de jouer un rôle essentiel pour la relance de l'économie. C'est la commande publique qui constitue un levier de reprise très fort pour l'investissement.
Et derrière la commande publique, bien évidemment, la figure du maire. Se pose malgré tout la question de la campagne. Comment mener une campagne en période de déconfinement? Est-ce qu'il va y avoir une vraie légitimité pour ceux qui seront élus demain avec une campagne qui va être forcément tronquée, Frédéric?
Oui, avec des moyens de faire campagne totalement inédits. Pas de meeting, pas de porte-à-porte, beaucoup de campagnes numériques, et puis peut-être une campagne faite par des débats télévisés, des débats sur Europe 1 entre les principaux candidats des principales villes françaises. C'est clair, il y a le risque, on le sait, que le vote soit marqué par un nouveau record d'abstention, comme il l'avait été au premier tour le 15 mars, mais je pense quand même que ce scrutin, quel qu'il soit, quoi qu'il arrive, ne changera pas la norme de tout scrutin municipal, à savoir une prime et une légitimation pour les maires sortants.
Même si ce scrutin restera évidemment dans l'histoire, compte tenu à la fois de ce report et des conditions dans lesquelles il va se dérouler, comme vous venez nous le décrire. Un mot peut-être sur un homme qui nous a quittés. Ce n'est pas vraiment de la politique, mais c'était aussi de la politique, notamment dans ces années-là, les années 70. J'ai nommé Michel Piccoli, qui nous a quittés à l'âge de 94 ans. Frédéric Dabi, c'était la figure typique de l'homme engagé.
Tout à fait, il y a une vague d'émotion dans le pays pour un des derniers géants du cinéma, mais je m'attarderai au-delà de l'acteur à l'homme, comme vous le dites, perpétuellement engagé dans beaucoup de ses films. On peut citer La Grande Bouffe avec les excès de la société de consommation, mais c'était un acteur qui s'impliquait dans la cité, sans pour autant milité. Il a été de tous les combats de la gauche en France pour la défense des sans-papiers, pour la parité homme-femme, dans les mobilisations contre le Front National avec les débuts de SOS Racisme. Il a aussi agi sur le terrain international et c'était avant tout un acteur qui se disait, j'ai repris une phrase qu'il avait citée dans l'Obs en 1985, toujours passionnément, obsessionnellement et lucidement de gauche. Il avait soutenu tous les candidats de gauche à l'élection présidentielle, de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Ségolène Royal. C'est une époque révolue où l'engagement des personnalités du monde du spectacle était la norme. Aujourd'hui, c'est devenu l'exception.
Et j'ajouterai un mot de lui quand on lui disait « Vous étiez un monstre sacré, Michel Piccoli ». Il répondait « Monstre, oui ». Non, non, sacré, certainement pas. Lui, l'homme de gauche, très laïque. Merci beaucoup, Frédéric Dabi, de nous avoir, comme chaque semaine, accompagné dans vos réflexions.
Merci François, au revoir à tous.
Europe 1, 19h37, dans un instant, affaire à suivre, François.
Oui, affaire à suivre sur le marché de l'immobilier qui se déconfine à vitesse grand V, vous allez le voir, mais aussi une recette, et je suis sûr que vous allez la faire dès ce soir dans votre cuisine, Marlène, avec Pierre Herbulot.
Ouh là là. Vous écoutez le grand journal du soir, et comme chaque samedi sur Europe 1, François Claus, on prolonge un dossier au cœur de l'actualité. Voici notre affaire à suivre.
Et notre affaire à suivre, elle concerne le marché de l'immobilier confiné pendant 2 mois et qui s'est ouvert depuis le 11 mai dernier, qui s'est ouvert très vite. Bonsoir Sandrine Allonier.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du groupe Vous Financez, une des sociétés référentes de courtiers en crédit immobilier en France. Vous êtes donc particulièrement bien placée pour scruter avant tout le monde les mouvements de ce marché. Nos confrères des Échos signalaient cette semaine que le marché de l'immobilier, dès le 11 mai, avait plus que frémi. Il reprenait un rythme de croisière extrêmement rapide. Vous confirmez que les transactions sont déjà là?
Oui, tout à fait. Déjà pendant le confinement, on a vu que l'intérêt pour l'immobilier était toujours très présent chez les Français. On sait qu'ils ont continué à faire des calculs d'enveloppe, savoir combien ils pouvaient emprunter. Donc on a quand même senti, même si le marché était sur pause, que l'intérêt était là. Et en fait, le marché s'est réveillé d'un coup, dès le 11 mai. Les visites ont pu reprendre, les signatures de compromis ont pu rapidement reprendre. Les banques ont à nouveau accepté de traiter les nouvelles demandes de prêts. Et du coup, on a eu un effet rattrapage finalement de ces 2 mois de pause, comme si on avait même une accélération pour rattraper le temps perdu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on ne s'attendait pas à retrouver une telle activité. Aujourd'hui on a repris 90% de l'activité qu'on connaissait avant le confinement.
Ah oui, 90% c'est énorme en un temps aussi rapide. Est-ce que vous diriez qu'il y aurait un réflexe chez les Français où finalement cette peur avec laquelle on a vécu là pendant 2 mois, on dit souvent que la pierre nous permet de nous, quelque part, de nous rassurer. Est-ce que vous pensez que ça a joué sur cette reprise aussi rapide que vous mentionniez?
Oui, complètement. On craignait peut-être un effet peur de se projeter dans l'avenir, manque d'envie d'investir à long terme. Et finalement, c'est l'inverse. Vous avez raison, la pierre rassure. On a en plus constaté durant le confinement une volatilité extrême de la bourse. Et finalement, aujourd'hui, l'immobilier apparaît comme une valeur refuge, mais également un outil de bien-être, puisque c'est ce qui s'est passé pendant ce confinement. On s'est rendu compte que on s'est recentré sur le foyer et finalement, avoir un toit dans lequel on se sent bien, c'est essentiel. Et c'est ça qui a aussi généré sûrement de nouveaux besoins, de nouvelles envies chez les Français qui ont passé 2 mois chez eux. Et du coup, là, dès le sortir du confinement, ils ont eu cette envie d'investir dans l'immobilier, surtout pour se loger et pour être mieux chez eux. Donc on a eu cet effet vraiment refuge de la pierre.
Refuge de la pierre, dites-vous, Sandrine Allonier. Est-ce qu'il y aurait également, de nouvelles habitudes dues au confinement qui vont émerger sur le marché de l'immobilier? On pense notamment à ces Français qui ont découvert le télétravail. Et après tout, travailler à la maison, les entreprises vont peut-être s'adapter également. Cela va obliger à aller chercher un autre bien, peut-être ailleurs, plus confortable pour travailler à la maison. Est-ce qu'on peut déjà mesurer cette tendance-là?
Oui, on le sent vraiment. Il y a eu vraiment une évolution des comportements qui ressurgit sur une évolution des besoins immobiliers. Les gens veulent déjà plus d'espace, donc ceux qui avaient déjà le projet de déménager là se disent c'est plus possible, on peut plus rester dans aussi petit. D'autres veulent évidemment un espace vert ou une terrasse, un balcon. Donc là il y a des visites sur les sites internet spécialisés dès qu'il y avait espace vert, ça fait plus 40, plus 50, plus 70%. Évidemment l'envie d'aller d'habiter dans une maison, de changer de région. Mais voilà, est-ce que tout ça va être pérenne? Aujourd'hui, on a certains actes d'achat qui sont compulsifs, ou en tout cas, on en est encore au stade des envies, hein, puisque les gens visitent des biens, certains ont déjà signé un compromis de vente. Mais après, est-ce que tout ça va pouvoir se réaliser? Voilà, est-ce que finalement tout ça ne va pas un peu trop vite? Parce qu'il va y avoir deux freins. Un, est-ce que le télétravail va vraiment être pérenne? Est-ce que les entreprises vont accepter que les gens ne viennent que 2 ou 3 jours par semaine? Ça, aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour le dire. Et deux, attention, c'est bien d'avoir des projets, des envies, mais derrière, il faut que les crédits soient financés. 80% des gens qui achètent le font avec un crédit immobilier. Et il faut pas oublier que même si on est tous dans l'euphorie du déconfinement, on a quand même peut-être une crise économique qui se profile. Et du coup, il va falloir voir si cette envie qu'on constate peut vraiment se concrétiser dans les faits et si les banques suivent. C'est vraiment ça aujourd'hui la clé de la vraie reprise du marché immobilier.
Oui, c'est la question que je voulais vous poser parce qu'on évoquait le côté refuge de la valeur pierre, mais il y a aussi le côté crainte dans l'avenir avec les plans sociaux qui vont arriver dans le monde de l'automobile, dans le monde des médias, on vient de le vivre, dans le monde de l'habillement également. Et cette peur-là, elle risque de faire retomber le marché et d'avoir des conséquences très lourdes également.
Voilà, c'est vrai que là aujourd'hui on est encore dans l'euphorie, mais il faut déjà anticiper l'après. Hein. Là, l'économie est encore sous perfusion, mais quand elle devra reprendre seule, c'est là que vraiment les banques vont devoir jouer leur rôle de financeurs, si je puis dire, de l'économie. Mais elles doivent aussi maîtriser les risques. Donc aujourd'hui, on a de nouveau des demandes de prêts qui reviennent. Les banques traitent évidemment tous les dossiers de prêts. Donc les banques sont là. Hein. On n'est pas du tout dans une crise bancaire, on est dans une crise sanitaire. Ça, c'est la grosse différence par rapport à 2008. Ou 2012 qui avaient vu le marché immobilier s'effondrer. Là, les banques acceptent de prêter, mais elles le font évidemment avec une plus grande prudence. Elles vont être attentives aux revenus de l'emprunteur. Est-ce que ces revenus vont être pérennes? Mais également au secteur d'activité dans lequel ils travaillent. Et ça, c'est nouveau. Il y a des secteurs évidemment qui sont plus touchés, hein, l'hôtellerie, la restauration, maintenant, comme vous le dites, l'habillement, les médias, l'événementiel, l'aérien. Donc ça, évidemment, ça va être un risque supplémentaire. Et puis, elles vont être aussi être attentives à la qualité du bien. Parce que pour l'instant, on n'a pas de baisse de prix, aucune baisse de prix n'est constatée.
Oui, j'allais vous poser la question, c'est étonnant. Pas de baisse de prix pour le moment, mais est-ce qu'à terme, on peut pas s'attendre, et c'est la question la dernière, j'imagine que les auditeurs l'attendent, est-ce que ça ne va pas entraîner une baisse de ce marché immobilier?
Alors pour l'instant non, puisque comme les acheteurs sont là, on a de nouveau plus d'acheteurs que de vendeurs, puisqu'on n'a pas cet attentisme, hein, donc pour l'instant, et on a peut-être des vendeurs qui se disent, est-ce que je vends maintenant ou est-ce que j'attends? Du coup on a plus d'acheteurs que de vendeurs, et dans ces cas-là les prix restent très tendus, notamment dans les grandes villes évidemment, mais également sur des biens comme des maisons. Aujourd'hui on a des délais de vente qui sont considérablement réduits parce que les biens partent très vite. Évidemment si les choses évoluent, si les gens mettent du temps à avoir leur crédit, si les ventes ne se font pas, on pourrait avoir un marché légèrement grippé, mais pour l'instant, nous n'anticipons pas de baisse de prix, et c'est pour ça que le marché reste très dynamique. Les gens se disent, c'est maintenant que je veux acheter, je veux changer de vie, et comme on n'anticipe pas de baisse de prix, pour l'instant, le marché reste très vif. Donc, tant que les banques suivront, et tant qu'il y aura autant d'acheteurs, pour l'instant, la baisse de prix à laquelle on s'attendait n'est pas constatée. Donc là, on part sur un marché dynamique, mais soyons prudents, attendons 2 à 3 mois pour voir si cette tendance se confirme. Si c'est le cas, on aura finalement pas tellement perdu 2 mois, hein, puisqu'il y a cet effet rattrapage. Mais attendons de voir si l'économie...
Attendons et soyons prudents, on a compris. On a compris votre message, Sandrine Allonier. Donc, dynamisme du moment, mais prudence quant à l'avenir. Je rappelle que vous étiez la porte-parole de Vous Financer, la société référente des courtiers en crédit immobilier. Merci à vous d'avoir été sur Europe 1 ce soir.
Merci, au revoir.
Plaisir des papilles à 19h46 sur Europe 1. Dans l'ombre des grands chefs, c'est maintenant François Claus.
Oui Marlène, et on est habitué maintenant pendant le confinement, Pierre Herbulot nous propose une recette qu'il fait chez lui en s'inspirant d'un grand chef, et vous pouvez aller directement dans votre cuisine, surtout si je vous dis qu'il s'agit ce soir d'une brouillade d'œuf au bacon croustillant et son crémeux au miel. Par Nicolas Salle. Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir François, je sais qu'il est presque 20h, mais c'est une recette pour le brunch de demain matin que je vais vous proposer ce soir. On va se faire des œufs brouillés. Alors, je ne vous arnaque pas puisqu'on va les faire façon Nicolas Salle, chef du restaurant 2 étoiles du Ritz à Paris. Je vous promets là une brouillade hyper crémeuse, un bacon croustillant et une crème de miel pour un effet sucré-salé. C'est parti. Première étape, on va faire la crème de miel. Alors c'est hyper simple. On prend une excellente crème fraîche, 40% de matière grasse. Moi, j'ai de la crème d'Isigny en Normandie, c'est absolument délicieux. Pour les proportions, on met 2 cuillères à soupe de crème fraîche et 1 cuillère à café de miel. On mélange délicatement pour pas trop abîmer notre crème, mais bon, c'est pas vraiment l'étape la plus technique de ce que je vous propose ce soir. Voilà, c'est terminé, on a notre petite crème de miel, on la met au réfrigérateur et on passe à la suite. Je sais qu'on dit le meilleur pour la fin, mais j'avoue que cette étape-là, c'est celle qui m'excite le plus, le bacon crispy. Je parle en anglais parce que c'est quand même la technique des Américains de rendre ce bacon hyper croustillant. Alors moi, j'ai demandé à mon boucher de me couper des tranches très fines de poitrine de porc. Et là, ce qu'on va faire, on va les mettre dans une poêle. On va les colorer assez doucement, à feu moyen, en les remuant tout doucement. Vous entendez ? Ah oui, ça fait pas un bruit d'enfer, hein, c'est sûr, on y va tout doucement. Et ça sent bon, oh là là. Voilà, il a une couleur magnifique, il est grillé. Et là, je vais le faire sécher entre deux feuilles de papier absorbant pour enlever l'excédent de gras. On va vérifier tout de suite si c'est bien croustillant. Bacon crispy validé. Je le réserve et je passe à la dernière étape de notre plat du jour. La brouillade, bien sûr, le plus important. Il nous faut des œufs qu'on va casser. Alors, on compte 2 œufs par personne. Je vais les battre un petit peu, et même beaucoup. Ce qui va être important là, c'est de leur donner du volume. On va faire entrer de l'air dans ces œufs. Dès que les œufs ont pris un petit peu de volume, on allume le feu. Alors, feu moyen, et là on s'arrête pas. C'est le fait de les fouetter comme ça, d'incorporer de l'air pendant un certain temps et de les cuire tout doucement qui fait qu'on va avoir une brouillade hyper crémeuse. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça vaut le coup. J'ai presque terminé, ça a bien épaissi. Dernière chose à rajouter, un peu de gourmandise, un morceau de beurre, un peu de poivre. On passe au dressage. On va mettre notre petite brouillade d'œufs au milieu de notre assiette, dans un petit emporte-pièce rond pour la coquetterie. On rajoute au milieu une petite cuillère de notre crème de miel qu'on a fait tout à l'heure. Et enfin, le bacon, on va l'émietter avec un couteau. Voilà, ça me fait une petite chapelure croustillante. Là, j'ai plus qu'à la mettre sur ma brouillade d'œufs. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Donc, je vais appeler ma goûteuse officielle depuis le début du confinement, ma compagne Victoria. Bonsoir, Victoria.
Bonsoir.
Allez, on goûte.
Les œufs brouillés sont fondants, crémeux. Il y a vraiment ce lard qui croustille sous la dent.
Ouais, c'est vraiment... C'est des œufs brouillés de compète. C'est un espèce de petit nuage, comme ça, avec des petits grêlons de bacon par-dessus et cette petite crème au milieu très légèrement mielée qui vient apporter un léger contraste avec la douceur de l'œuf et la puissance du bacon. C'est vraiment délicieux, c'est hyper simple et donc ça vous fait un brunch étoilé, tout simplement.
Le bacon crispy, je le sens d'ici. Pierre Herbulot, c'était dans l'ombre des grands chefs. Les proportions...
Je vous l'avais dit, hein, Marlène. Vous allez le faire dès ce soir.
Mais sans beurre et sans crème, moi, je vais essayer.
Mais non, un petit peu, c'est tellement bon, la crème et le beurre.
Les proportions, les ingrédients sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Et à suivre dans ce grand journal du soir, François.
Oui, elles sont délicieuses, on adore les entendre, les petites voix.
Ah oui. Ils vont... Le grand journal du soir, la suite et la fin sur Europe 1, il est 19h52. Voici les petites voix d'Europe 1, François.
Et elles vont quelque part nous manquer, ces délicieuses petites voix avec Xavier Yvon. C'était tous les vendredis matins entre 9h et 9h30 pendant le confinement sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. C'était la dernière ce vendredi, alors profitons bien des petites voix d'Europe 1.
Bienvenue dans les petites voix avec des enfants qui ne partagent plus tous le même quotidien confiné. Partout sur la planète, on se déconfine à des rythmes différents. Bonjour les petites voix.
Bonjour.
Et nous retrouvons donc Marius et Violette en France, Rosalie en Allemagne, Olivia en Belgique et Sacha aux États-Unis. D'ailleurs, on va commencer avec toi ici à New York, Sacha, parce que cette semaine, tu as été testée pour le coronavirus. Est-ce que tu peux nous raconter ?
On a attendu hyper longtemps pour avoir notre tour parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont testés. Il y a une dame qui m'a mis une aiguille hyper fine dans ma veine. Ma veine, elle est pas assez grosse, donc on pouvait pas avoir assez de sang pour faire un test. Mais ils vont quand même essayer de le faire.
C'était pas dans le nez, parce que moi, à Berlin, on le fait dans le nez.
En fait, dans le nez, c'est pour savoir si tu l'as, je crois. Et quand tu fais une prise de sang, c'est pour savoir si tu l'as eu.
Moi, c'est vrai que ma maman et mon papa et ma petite soeur, on va se faire tester parce que il y a 2 mois environ. En fait, on avait beaucoup de fièvre, on était au moins à 41. Et du coup, on voulait faire le test pour savoir au moins si on l'avait déjà eu. Et comme ça, du coup, on a peut-être des anticorps. Et comme ça, on pourrait aller chez mes grands-parents dans le sud. Mais si on est positif, bah, on pourra pas descendre.
Alors voilà pour le dépistage. Il y a aussi le retour à la vie plus ou moins normale. Toi, Violette, je sais par exemple qu'en ce moment, tu fais ta première sortie à vélo depuis des semaines. Et on entend même les rues de Paris derrière toi.
Moi, ici, dans la rue, il y a plus de monde. Aussi, on avait l'impression que Paris, c'était super propre parce que personne ne sortait et tout. Et donc, du coup, là, on a un peu l'impression de nager dans une poubelle. Moi, je voulais vous demander si dans les autres villes, tous les 2 mètres, vous trouvez un gant ou un masque.
Moi, à New York, quand on allait chercher mon frère à la crèche, on a vu plein de gants et de masques par terre.
Moi, à Bruxelles, là où j'habite, j'ai vu plusieurs masques par terre et... Mais pourtant, l'endroit où j'habite, il y a vraiment des poubelles partout.
Moi, à Berlin, il n'y a pas du tout de déchets par terre. Tout le monde prend des masques en tissu et personne ne les jette, donc il y a moins de pollution aussi.
Moi, ici à Paris, on a de la chance parce que les éboueurs, ils font très bien leur travail et que c'est pas du tout simple pour eux en ce moment. Surtout qu'eux, ils sont exposés vraiment plein de faces aussi au coronavirus. Et on n'en parle jamais de... Faudrait aussi les remercier parce qu'ils sont vraiment... courageux, on va dire ça comme ça.
Et sinon, le déconfinement, ça se passe comment chez vous? Qu'est-ce qui change d'autre?
Moi, à Berlin, progressivement, on retourne à la normale. On peut aller dans des restaurants. Et bien sûr, on enlève les masques quand on mange. J'y suis allée. C'était presque normal. Sauf que la serveuse, elle a un masque et des gants.
Moi, à Seb, en tout cas, j'étais contente d'une chose aussi. C'est que le football allemand est repris, parce que quand même, moi je veux un peu de foot, du coup je suis content, même si je pense pas que non plus les joueurs sur les contacts qui respectent pas non plus trop les gestes de barrière, je suis content de pouvoir voir un peu de foot.
Mon frère, quand il a appris la nouvelle, parce que c'est aussi un grand fan de foot, il collait à mon père, il disait « Quand est-ce qu'on regarde le foot ?»
Bon, maintenant qu'on espère que le pire est derrière nous, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que le coronavirus va nous changer, changer nos habitudes pour toujours? Ou bien est-ce qu'un jour, tout redeviendra comme avant?
Moi, ici à Paris, je pense que soit à un moment, le virus va s'arrêter vraiment, soit il y a un deuxième cas où il va falloir apprendre à vivre avec, faire des nouvelles règles, avoir des nouvelles attitudes. Déjà, les gestes barrières pour certains d'entre nous, ceux qui font pas la fête sur le canal Saint-Martin ou qui font pas les zigotos à se faire des corona parties, ils ont déjà un peu imprégné les gestes barrières. Et donc déjà, ça, je pense que c'est un point de gagné.
Moi, à Berlin, comme il y a beaucoup de gens qui ont des masques en tissu, peut-être qu'ils gardent le masque pour le mettre quand ils sont malades. Ça peut vraiment servir, les masques, après, dans tous les transports. Moi, un jour, je suis partie en train et j'avais la crève. J'ai même pas pensé à prendre un masque. Et je pense que là, ça reviendra à l'esprit des gens.
Moi, à New York, quand je lis un livre, quand ils dansent, quand ils se font un câlin ou quand ils se tiennent la main, je me demande souvent pourquoi ils se touchent, pourquoi ils sont hyper prêts. Et puis après, je me souviens qu'en fait, il n'y a pas le coronavirus dans le livre. Ça me fait un peu bizarre et je ne sais pas quand je vais arrêter d'y penser.
Moi, à Bruxelles, je pense que le monde va s'en remettre. Il y a déjà eu des pires épidémies de maladies que le coronavirus. Et donc, le monde s'en est remis à chaque fois. Et donc, ça, même si ça doit prendre du temps, au final, ça reviendra à la normale.
Ouais. Ouais, il y a quand même eu la grippe espagnole, la peste noire, donc il y a eu des maladies quand même un peu plus dures.
C'est ça, et en plus on a des meilleures technologies aujourd'hui qu'on avait à l'époque.
Oui, et puis à un moment aussi le virus il va un peu se stopper parce qu'on va avoir trouvé un vaccin et ça va aussi un peu changer notre vie.
Il y a de l'espoir donc, on sort petit à petit de ce moment très particulier vécu par nous tous à travers le monde. Et c'était donc la dernière des petites voix. Merci à vous les enfants de nous avoir aidés à traverser cette période avec plus de légèreté, c'est ce que nous disent les auditeurs dans leur message. Bon, est-ce qu'on se souhaite de renouveler l'expérience un jour ou pas?
Oui.
Non. Pourquoi? Non, moi j'ai pas envie que ça recommence parce que après ça veut dire une nouvelle épidémie, un nouveau confinement et ça j'ai pas du tout envie.
Et aussi j'avais une petite dédicace pour mes amis que j'avais pas vus depuis très longtemps et que j'ai pu revoir et aussi à ma meilleure amie. Et du coup je voulais tous leur faire une dédicace à tous les enfants du monde et aussi leur dire merci d'être restés chez eux parce que maintenant ça va mieux mais... Il y a eu vraiment un moment où c'était horrible.
Merci aussi à tous les enfants qui ont participé depuis la Chine ou le Costa Rica ou la Côte d'Ivoire ou partout en France. Merci aux enfants qui nous ont envoyé des messages. Et on va conclure, comme chaque semaine, avec notre consigne qui vaut encore pour longtemps. Et on va tous, cette fois, la dire en même temps. Comme c'est en anglais, Marius, j'espère que tu t'es entraîné. On a une petite archive de l'enregistrement de la semaine dernière, rien que pour toi. Écoutez.
Vous connaissez comment en anglais? Parce que moi, je suis pas très fort, on va dire.
Stay safe.
and wash your hands.
Bah vas-y, Marius, essaye.
Non, c'est bon, c'est bon.
Marius,
oui, d'accord.
Essaye.
Marius, take your hands off your hands. J'y arrive pas, voilà.
Oh my god.
Allez, les petites voix, la consigne.
Stay safe and wash your hands.
Prenez soin de vous et lavez-vous les mains.
Très très beau Xavier Hubon. Hein.
Ben voilà, le grand journal du soir, c'est terminé pour le moment.
Et oui, ça a été un plaisir, Marlène, de partager ces deux heures avec vous. J'aurais aimé entendre ma petite Jeanne qui m'a dit, en voyant un avion hier, « Oh là là, il y a un avion, regarde papa, il n'y a plus de petits virus. » Je lui ai expliqué que c'était un petit peu plus compliqué. c'était un plaisir de partager ces deux heures d'antenne avec vous, chers auditeurs. Grand merci à Kevin Ousti qui a réalisé, à Marjorie Adelson, à la programmation, à l'indispensable Naïma Bencheman, et bien sûr à Patrick Lamy, notre chef d'antenne, qui a assuré toutes ces nombreuses liaisons.